préparer votre retraite. Une horde d'affamés s'amasse en bas de vos fenêtres. Et pour vous, à la cautériser l'endroit où croise la tendresse. Oui messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le dimanche 17 avril 2011. Nos programmes pour cet après-midi, oui, oui, bien sûr. Mais bien sûr, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farah. À 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici notre magazine d'investigation sur les filles qui s'habillent en uniforme d'écolière. Ouh, c'est leur faux coup, comme on dit dans le milieu, avec la jupe remontée jusque-là. Que vous attendez tous.
Précédemment, dans le Zone Weekend.
Et... moi, je regrette fortement que vous ayez plus la partie en taille.
Ah, oui, mais alors, c'est pas qu'on veut pas l'avoir, hein, c'est qu'on ne trouve personne qui puisse nous faire quelque chose de bien, quoi. C'est ça, quoi.
Ah,
ouais, c'est surtout ça.
C'était ça.
Ah, oui, oui, parce que nous, alors, je fais un appel, hein, s'il y a des professionnels qui vendent des produits en taille.
Tu veux foutre la merde chez moi parce que ma copine va me regarder bizarre si je cherchais dans la bibliothèque.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Rich. Et la participation exceptionnelle de JB.
Sébastien Laurent, donc qui était la semaine dernière il y a 15 jours, notre invité sur le supplément week-end pour le TGS ou un ami qui donc a eu lieu
avec Rafi aussi.
Le week-end dernier et qui donc voilà, si vous êtes un gros obsédé au point d'en faire du commerce, mais attention, en tout bien, tout honneur. Hein.
C'est de l'obsédé. Bon voilà, c'est si vous aimez vendre des DVD avec des filles à poil et des figurines déshabillées, bon voilà, c'est pas la mort non plus. Hein, voilà.
J'ai beaucoup aimé ton introduction à la Bernard de Villardère, c'était très bien. Ceci dit,
le mec qui marche les pieds nus dans l'eau et qui caresse des chats au Japon.
Voilà. Mais heureusement, il n'y a pas que ça au Japon, loin de là. Et de toute façon, vous savez que on en a plus ou moins parlé au cours donc des différentes émissions à cause des événements donc qui se sont passés, le grand tremblement de terre, le tsunami surtout qui a fait énormément de dégâts, les multiples répliques et l'incident nucléaire à Fukushima qui n'est pas encore résolu. Néanmoins, il y a d'autres choses à dire, heureusement, là-dessus, et justement, la vie au Japon ne s'est pas complètement arrêtée suite à ça. C'était justement l'un des messages qu'a voulu faire passer le TGS Wanami, d'abord en ne déprogrammant pas leur salon du tourisme au Japon, mais au contraire en y consacrant une place à la Croix-Rouge internationale. Il y avait aussi le gâteau qui est fait à chaque édition du TGS. Là, c'était la deuxième édition du TGS Wanami. Le gâteau qui était fait traditionnellement pour les guests et pour les invités et pour ceux qui achètent les places en VIP. Était vendu du coup au public pour justement lever des fonds qui a plutôt bien marché. 4 000 euros ont été récoltés.
4 000 euros est dedans au total,
donc c'est un joli chiffre quand même. Il y a encore tout n'est pas reconstruit au Japon, loin de là. Il faudra encore à mon avis plusieurs mois avant de penser les plaies et tout. On a encore de superbes images photos, notamment sur le blog du Boston Globe, The Picture, qui en général choisit des photos vraiment superbes. Et là, les images de villes fantômes qui ont été complètement balayées, avec toutes les maisons qui ont été mises en oblique par la vague, et avec les feux de croisement qui sont allumés, mais il n'y a personne dans les rues. C'est pas parce que c'est un pays riche, c'est comme la France, c'est pas parce qu'on est un pays riche que on est forcément mieux préparé que d'autres face à ce genre de situation. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait bien évidemment différentes choses à voir au TGS ou un ami, bien évidemment des cosplayers, bien évidemment des stands de jeux vidéo, de jeux de vidéo d'ailleurs musicaux comme stand de DDR Bordeaux. Il y avait Coucou Circus qui était présent, ce qu'on ne savait pas, c'est que la veille, le mec qui est derrière Coucou Circus était allé à la SACEM avec Bernard Minet en caution. Ils sont venus à à un accord avec la SACEM, donc il y a un appel de dons pour à purger le passif, et après ben la SACEM est d'accord pour ne toucher que 10% du chiffre d'affaires du site, puisque le site va devenir consultation musicale payante. C'est pas énorme hein, mais bon, ça peut se comprendre à la limite. Je sais pas, pour notre émission par exemple, pour sortir des vieux génériques, ça peut être utile.
Oui, donc en fait tu es en train de dire que si vous voulez si vous voulez récupérer des génériques là, c'est le moment. Attends qu'ils soient gratuits, c'est ça?
non, puisqu'il l'avait déjà fermé quand il avait eu la première lettre et tout, mais il a dit qu'il ferait du coup un immense effort sur la qualité sonore, puisque justement il y aura un cadre légal et tout le reste.
Sankukai.
Entre autres. Pas que ça, il y avait aussi, il y avait un peu de tout, il y avait des démonstrations de cuisine japonaise, donc on n'a pas le droit de donner le nom du magasin à l'antenne, mais c'est un magasin qui est sur Toulouse et qui fait de la vente de bento et qui du coup a fait des démonstrations. De choses assez amusantes, de moules à œufs durs, des
moules très rigolos, oui, pour ouais. avoir des œufs en forme de poisson, en forme d'étoile de mer.
Ou des ustensiles pour faire des chips au micro-ondes, oui. Sans huile et sans sel. Du coup, c'est un
on
peu
l'avait
fan.
Déjà repéré celui-là.
Il était déjà, mais du coup, on a des présentations où il fait la démonstration et tout.
Il a fait un atelier devant une assistance en montrant avec des gens qui pouvaient être volontaires pour manipuler les outils.
Avec les moules à sandwich et tout. C'est rigolo d'ailleurs. Voilà. Et ce sera en vidéo d'ailleurs sur le site du Supplément Weekend dès qu'on pourra. C'est en cours de montage d'ailleurs. Il y avait aussi des gens qui faisaient des démonstrations de. Il y avait des collectionneurs de voitures. Non mais on s'en fout. Du s'ouvre le courrier en retard.
C'est comme il fait comme Philippe Pandel, tu sais. Alors on m'a envoyé ça.
Non mais ça on s'en fout. Moi je parlais des voitures donc puisqu'il y avait des furieux de voitures de japonaises.
Voitures japonaises.
Ouais. Pas vraiment tuning hein.
C'est des voitures
tuning.
Un peu pour aller vite. Et on voit que bah, y avait pas
c'est des voitures pour en jeter quoi.
Voilà.
Pour,
si vous avez des familles, c'est pas pour vous.
Voilà, c'est. Ah oui, non, c'est clair. C'est clair.
Et puis les Japonais sont de petite taille, alors bon, pour y aller.
Oh non, celle-là, c'est.
Non, mais je sais pas, nous on fait 1m90 tous les deux, on peut pas entrer dedans.
J'ai même pas osé, je dois avouer.
Ah, tu l'as pas posé la question en interview du mec ?
Si. Mais plein d'autres choses. Accessoirement, donc, il y avait aussi bon des trucs de sumo, un truc un petit peu rigolo et tout ça. Des ventes de déguisements,
des
ventes
d'accessoires pour les cosplayers, des
voilà,
sabres, des
de coupe-papier de 1m50 de long et tout le reste. Il y avait aussi des auteurs qui
tu
étaient.
Tu vois, c'est ça qu'il faudrait à du sport pour ouvrir son courrier là.
Il y avait des dessinateurs qui étaient sur place, il y avait David Mourier notamment qui était présent pour dédicacer ses bandes dessinées, 41 euros. Il y avait aussi des animateurs de chaîne de télé. Non, je ne citerai pas le nom.
Mais non, pas du tout.
Non, mais normalement, on a fait le son hein, en plus, donc je pense qu'il y aura un petit truc un peu spécial, complètement foufou. Donc il y avait vraiment de quoi rigoler. Et puis, il y a eu ce grand moment. De recueillement cette preuve je veux dire à la fois de compassion mais aussi de solidarité qui a été montrée par le public toulousain du Toulouse Game Show édition One Ami qui était vraiment touchant et tout ça, c'était la fameuse minute de silence.
1, 2, 3 merci à tous.
Minute de silence, oui, enfin voilà, donc il y avait une grande bâche, Toulouse for Japan, qui est une association qui a été montée ad hoc, je veux dire, suite à ces événements, une grande bâche où le public était invité à signer, qui sera exposé à la mairie de Kyoto, non, d'Osaka, pardon, et ensuite sera envoyé...
c'est Osaka qui centralise, voilà, dès que Sendai sera en mesure de recevoir les divers objets et témoignages.
Toi, t'as écouté le rush de l'interview.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc c'est l'interview qui vient.
C'est exactement ce qu'il a dit.
C'est bien de spoiler ce que va dire invité.
Oh, c'est pas comme si on diffusait l'interview tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Enfin bref, c'est il y avait donc une collecte de fonds, il y avait donc cette bâche, il y avait cette vidéo du coup qui va être envoyée à des organisations, hein, puisque l'idée c'est de faire du bruit pour montrer que oui, on est avec vous quand même. Donc ça oui, je vais dire, c'est une édition qui était justement de ce côté-là réussie par le fait que c'était pas superficiel.
Voilà, même si c'est pas grand chose et que on a un peu l'impression que c'est du c'est un coup d'épée dans l'eau, mais en même temps bon, c'est bien que les Japonais sachent que ils sont pas tout seuls. Après bon voilà, c'est pas ça qui va non plus enlever les, enfin secourir les sinistrés et tout, mais bon, c'est quand même ça fait chaud au cœur, donc c'est déjà ça.
C'est déjà ça. On a eu donc en interview le directeur exécutif du Centre culturel franco-japonais de Toulouse, Claude Yoshizawa. Donc cette interview, elle a été enregistrée samedi dernier au TGS Wanami en public. Et vous allez voir, pour, je dirais qu'il a une mentalité japonaise, mais je veux dire une tchatche bien française.
Ah oui, là on voit vraiment c'est le côté Claude, hein, plus que Yoshizawa qui parle.
Exactement. Claude Yoshizawa, donc interview qui a été enregistrée donc samedi dernier. Monsieur Yoshizawa, bonjour.
Bonjour.
Donc alors, vous êtes directeur général du centre...
Exécutif. Ouais, non.
Alors, présentez peut-être un peu mieux dans ce cas l'association.
Oui, notamment, voilà, c'est pour jouer un petit peu, hein, mais pour présenter, directeur exécutif du Centre culturel franco-japonais de Toulouse. Mmh. C'est un organisme que nous avons créé avec un céramiste japonais qui habite à côté de Fronton, qui est un ami. Et donc, nous avons créé il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans, ce centre culturel. Le but, c'est simplement d'essayer de contribuer à notre petit niveau au développement des relations entre le Japon et Toulouse, la Haute-Garonne, la Midi-Pyrénées et même l'ensemble du Sud-Ouest. Voilà.
C'est vrai que le Japon est plutôt vu, le Japon voit la France en général plutôt comme une destination de tour opérateur pour faire l'ensemble de l'Europe. C'est pratique, l'Europe c'est des petits pays, donc on va extrêmement vite. Et en général, ils sortent pas forcément des capitales en elles-mêmes. Je suppose que vous faites aussi bien le travail justement de faire découvrir le Japon aux Français que de faire découvrir, la France hors périphérique.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on a baptisé notre centre culturel franco-japonais. Voilà, ce n'est pas une maison de la culture du Japon, quelque chose, ce n'est pas à sens unique. C'est aussi pour faire connaître la France et notamment la région sud-ouest et Toulouse en particulier au Japon. De plus en plus, vous savez, c'est vrai que les Japonais vont dans les grandes capitales, mais de plus en plus, ils aiment se déplacer dans l'arrière-pays, je dirais, découvrir les provinces, parce que ça fait quand même plus de 30 ans maintenant que les Japonais viennent en France. Une fois qu'ils ont vu Paris, ils ont envie de voir autre chose.
Voire ils s'installent par ailleurs, puisque c'est vrai que ça fait un bail quand même que les entreprises japonaises sont plus ou moins présentes sur la région de Toulouse. Là, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a une certaine vague de sympathie auprès d'une nouvelle génération d'actifs, notamment par les mangas, par les jeux vidéo, par les appareils technologiques et tout le reste. Comment vous avez vu l'arrivée en fait de l'équipe du Toulouse Game Show quand ils sont venus vous voir? Sympathique, fou furieux, allumé ou justement presque normaux?
Ah non, allumé très certainement, mais dans le bon sens du terme, sympathique évidemment, vous les avez rencontrés, hein. Comment ne pas les trouver sympathiques? Et surtout, honnêtement, si le centre culturel existe maintenant et surtout là où il en est, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, voilà, ici on a pris en parallèle à eux qui sont sur Agora, nous on est sur Diagora et tout, tout ça c'est grâce au TGS. Ils étaient là bien avant qu'on arrive, puisqu'il existe depuis maintenant, ça sera la 5e année pour le grand TGS en novembre, hein. Et c'est grâce à leur soutien, grâce à l'amitié d'abord de Sébastien et de Frédéric qui m'ont porté, et puis c'est eux qui nous ont encouragés dès le départ. On a fait un club affaires par exemple, ils ont été les premiers à y adhérer, et voilà, et nous on essaye en revanche, en contrepartie si je puis dire, d'apporter notre petit plus qu'on puisse apporter à déjà quelque chose qui est fantastique comme le TGS, hein, on a vu l'année dernière, mais voilà, on essaye d'apporter aussi autre chose et pas que de la culture, puisque dans notre centre culturel on a un pôle tourisme aussi, on a un pôle business, voilà, et on essaye d'apporter aussi un petit peu autre chose pour globaliser, je dirais, les relations. Voilà.
Alors, puisqu'on parlait du pôle business, c'est vrai que ça a été un petit peu surprenant de se dire, dans un festival de cosplayers, il y a un coin où les entreprises vont pouvoir parler justement à d'autres entreprises. Les retours ont-ils été positifs? C'était un début ou ça a été plus qu'espéré?
Alors, ça a été, je dirais, un petit peu mitigé. Les entreprises locales Peut-être que je les ai on a mal communiqué. Hein. C'est peut-être de notre faute, très certainement d'ailleurs, mais elles ne sont pas venues autant que je ne pensais.
Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont réussi à passer le banc des filles déguisées en chat?
Alors ça peut-être pas. Ils ont peut-être été détournés par cela. Non mais justement, le but c'était aussi de découvrir ça, parce qu'il faut quand même rappeler que l'année dernière, il y avait près de 30 000 visiteurs, hein, et payants, je dis bien, 30 000 visiteurs payants pour le TGS. Et il y a énormément de Toulousains qui ignorent ce que c'est que le TGS et le Toulouse Game Show. Donc déjà, une première chose, ça serait bien qu'ils le connaissent, parce que 30 000 presque jeunes, je dirais, on est dans une ville où il y a, je ne sais pas, alors les chiffres étaient un petit peu entre 100 000, 110 000, 120 000, 130 000 étudiants, suivant les chiffres. Bon, ça, quoi qu'il en soit, ça représente, je dirais, presque un tiers des étudiants de la région qui viennent. Voilà. Donc c'est un événement majeur qui est à Diagora, et pour ça c'est super. Voilà, donc ils le connaissent. Et là-dedans, donc moi, mon but, c'était aussi voilà, aux entreprises de leur faire découvrir ça. Parce que c'est bien qu'ils savent que derrière les cosplayers, il y a des étudiants, il y a certains font des études, des recherches très compliquées, etc. Mais c'est bien de savoir que ça existait. Et en plus, il y a les côtés passionnés. Mais le manga, c'est une industrie énorme. Les jeux vidéo, c'est énorme. La France est le deuxième marché du manga dans le monde après le Japon. Et la vente des jeux vidéo, je crois, dépasse complètement la vente des DVD du film, des cinémas, hein, DVD, Blu-ray, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc il y a de l'économie derrière. Et c'est bien que les entreprises de la région, quelles qu'elles soient, en soient conscientes.
D'un autre côté aussi, donc c'est la première édition d'un salon du tourisme, donc plus orienté grand public, avec justement des partenaires, je vais dire, locaux sur place, puisqu'il y a la ville d'Osaka, il y a la ville de Kyoto qui sont présents sur place. Coup du sort, avec donc les catastrophes qui s'enchaînent au Japon, et c'est là que l'on voit vraiment la mentalité japonaise. Et il faut que, quand même, malgré tout, on ne va pas pleurer sur notre sort, on a un pays à redresser, il faut qu'on montre que malgré tout la vie continue. Et donc vous avez continué, vous avez souhaité dans votre ensemble à ce que ces salons aient malgré tout aient lieu.
Alors je vais vous faire une petite comparaison. Imaginez la chose suivante. Il y a eu un tsunami, on ne sait pas comment, mais bon, il y a eu un tsunami qui a ravagé la côte française de Brest jusqu'à Dunkerque. Honfleur n'existe plus, Deauville n'existe à peu près plus, Le Havre a été bien atteint, et puis il y a une entreprise nucléaire à La Hague qui a un gros problème, et donc on a interdit l'accès sur une zone de 80 km. Et là, ça c'est l'état actuel des choses, d'accord? Et là, on ne sait pas ce que va devenir La Hague. Bon, prudence, c'est sûr, vigilance. Mais là, vous avez tous les pays du monde, et le Japon en particulier, par exemple, qui vous dites, il ne faut plus aller en France. Qu'est-ce qui se passerait en France? Je crois que vous aurez la région Toulouse-Midi-Pyrénées, vous aurez la Côte d'Azur, vous aurez l'Alsace qui diront non, non, il y a un problème localisé, c'est vrai qu'il faut être vigilant et tout, mais chez nous, il n'y a pas de problème. Et donc, en plus, comme l'économie française dans sa globalité a souffert de cette situation, si vous voulez vraiment nous aider et vous dites tous que vous voulez nous soutenir, et d'un autre côté, vous venez plus. Venez chez nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, aussi bien économiquement que pour le côté moral. Venez en Côte d'Azur, venez à Toulouse, venez en Midi-Pyrénées, dans le Sud-Ouest, venez en Alsace, venez à Lyon, etc. Même les entreprises. Vous avez peur de Lille, qui est tout près? Vous avez peur de Paris, c'est à 250 km, comme Tokyo, à Fukushima? Il y a Lyon, il y a Marseille. Au Japon, il y a Osaka, il y a la deuxième grande ville du monde. Il y a Kyoto, il y a Kyushu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien sûr, ils ont subi aussi les contre-coups, je dirais, les effets du tsunami. Mais pas physiquement. Et Fukushima, c'est un problème ponctuel, localisé pour l'instant. Bien sûr, il faut être très vigilant. On ne sait pas encore ce que ça va devenir. Alors, je dis pas aux gens, allez tout de suite au Japon, c'est pas le problème. Mais là où tout le monde dit, attends, non, faut pas y aller, c'est tabou, etc. Nous, on dit, ceux qui veulent y aller, surtout, arrêtez de décourager les gens qui veulent y aller. Ce sont des grandes personnes. Il faut qu'ils soient bien vigilants sur ce qui peut arriver. C'est sûr, c'est pas évident. Il y a des séismes encore, mais s'ils veulent y aller, montrer leur soutien, etc. Et c'est comme ça qu'on pourra soutenir le Japon. Et sûrement pas comme le font, Jacques-Sébastien vous en a un petit peu parlé, mais comme finalement, dans ce salon, les deux seuls qui nous ont laissé tomber, hein, je leur ai demandé de venir pour communiquer sur la destination. Ils m'ont dit non, on ne peut pas le faire au niveau de notre direction, notre éthique nous interdit, etc. Je ne sais pas de quelle éthique ils parlent, vraiment, de cela. Et même quand je leur ai dit, voyez, on va ouvrir un espace soutien au Japon, on va pour montrer que l'on nous soutient. Est-ce que vous voulez pas venir quand même dans cet espace? On m'a répondu non. Bon, très bien, ok. Et donc, moi, je voulais remercier. Vous savez, chez vos confrères Ruquier, là, on n'est pas couché là. Ils remercient toujours ceux qui sont venus et puis ceux qui sont pas venus. Donc, laissez-moi vous dire un petit merci, hein, pour ne pas être venu à Havas Voyage, La Dépêche et Air France. Les deux seuls français. Et pourtant, ce sont des spécialistes. Hein. Ils auraient vraiment eu leur place. Bon, voilà, ils ont décidé de pas venir. Je ne trouve pas cette attitude, ni même, je ne sais pas, cohérente. C'est pas cohérent. je ne sais pas. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'à part ce loupé magnifique, je vais dire, de gens qui nous surprennent dans l'art de ne pas gérer la communication, est-ce que vous pensez malgré tout que vous allez faire un deuxième? Je pense plus que oui, et peut-être justement montrer, vu de la saison, que c'est le Japon des cerisiers en fleurs.
Bien sûr, si nous avons l'occasion l'année prochaine de faire un deuxième, et encore une fois d'ailleurs, Havas, Voyage, La Dépêche et Air France seront les bienvenus. Hein, ils sont pas venus cette fois-ci. Moi, je considère que c'est une grosse, en effet, un gros raté, mais de leur part. Parce que vous voyez, le salon, il y a des gens, ils sont là. Ils sont là avec, pour le soutien, ils sont là pour se renseigner. Auprès d'agences de voyage japonaises, on a fait venir vraiment des spécialistes. JTB, par exemple, c'est 27 000 employés à travers le monde. C'est un gros, et eux, ils s'y connaissent. Voilà. JAL Tour, voilà. Le groupe JAL, la ville. Vous avez parlé des villes de Kyoto, d'Osaka. Osaka, c'est un peu particulier parce que, vous savez, la ville d'Osaka a beaucoup d'expérience en termes d'aide, de bénévolat pour ce genre de problème, parce qu'ils ont eu Kobe il n'y a pas longtemps, je veux dire, enfin il y a une quinzaine d'années, et c'était Osaka qui a énormément aidé. Donc toute cette connaissance qu'ils avaient de gérer les crises, ils ont voulu le mettre aussi au service donc de Sendai et de la région. Donc ils sont là aussi pour montrer ça, pour aider, et grâce à eux, tout ce que l'on fait ici, vous voyez cette bâche qu'il y a derrière moi, vous voyez, elle est signée par tout le monde, elle va être donnée au bureau de représentation de la ville d'Osaka à Paris, qui va l'envoyer au Japon dans ses bureaux, à Osaka. Osaka va le garder pendant un moment et l'exposer, et ensuite quand la ville de Sendai sera un peu plus apte à la recevoir, ça partira à Sendai. Et donc tout ce qu'on fait ici, avec des photos qu'on va prendre, avec des dessins qui sont faits, des messages sous forme de dessins, etc., tout ça, ça va partir au Japon, et les Japonais sauront que, voilà. On n'est pas obligé de le faire savoir, je dirais, mais c'est bien aussi de créer un espace pour que les Toulousains puissent s'exprimer, etc. Mais si ça va au Japon et que les Japonais sont au courant, après, ils apprennent que tout, voilà, il y a une ville, Toulouse, qui s'est mis, voilà, qui s'est mobilisée, et par solidarité, qui a fait plein de choses. Et pas que chez nous d'ailleurs, il y a eu des événements la semaine dernière. La semaine prochaine aux Augustins, il y a un grand concert aussi, de concert classique, etc., qui est organisé. Voilà, tout ça, c'est Toulouse for Japan. Toulouse pour le Japon. Voilà.
Claude Yoshizawa, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon festival.
Et bonjour à tous vos auditeurs, vos spectateurs, vos fans.
Mille merci.
Merci FMR.
Voilà, Claude Yoshizawa, directeur exécutif du Centre culturel franco-japonais de Toulouse. C'était enregistré samedi dernier. Alors vous avez compris que le retrait des deux exposants, ce qui pour une entreprise occidentale pourrait se motiver quand même comme une pudeur, ça a été vu comme un manque de solidarité par les organisateurs de ce salon du tourisme consacré à un pays d'Extrême-Orient. La preuve que les us et coutumes sont très différents d'un hémisphère à l'autre de notre planète, mais aussi qu'il y a un réel transfert culturel. Bon, évidemment, si les deux sociétés dont il a été question souhaitent exercer leur droit de réponse sur votre antenne, eh ben, elles sont les bienvenues. Accessoirement, Thomas, le TGS One Ami, c'est l'édition, je vais dire, un petit peu light du Toulouse Game Show.
La version light et la version japonaise.
Voilà,
surtout japonaise.
Plus réduite sur le Japon en soi. Et après, il y a ce qu'ils appellent dans l'interview et ce qu'ils appellent en off, le grand TGS.
Voilà, donc alors avant, il faut juste préciser que l'espace Diagora à la Belge est constitué de l'espace Agora et de l'espace Diagora. Et là, cette fois-ci, le TGS Wanami ne prenait que l'espace Agora, et Diagora était
au salon
accordé le salon Voyager au Japon. Voilà. Donc tu disais oui, on part du grand TGS qui aura lieu en novembre 2011, et nous avons déjà l'identité qui a été confirmée du premier invité officiel qui viendra, c'est sûr. Et là, je pense que du sport va kiffer grave, car il s'agit de Ernie Hudson.
Ouais.
Ernie Hudson, qui était donc le noir de l'équipe. Bon, pour ceux qui connaissent plus de SOS Phantom, mais surtout le patron de la prison de Oz. Voilà, donc
j'ai pas eu le temps d'envoyer le générique de Oz.
Ah ben, bon,
voilà. Ce sera une prochaine.
Donc Oz, voilà, donc le patron de Oz.
Oui, oui,
voilà.
Et puis c'est également un habitué de Nanar Improbable et tout, Sniper 2, enfin des trucs comme ça. Enfin bon.
Mais c'est marrant que tu parles de Nanar Improbable, car il se trouve qu'il a tourné dans Dragon Ball Evolution. Voilà.
Pauvre de lui, pauvre.
Et dans un registre un peu plus classique, c'est également le copain, hein, on ne sait pas s'ils sont mariés, mais enfin c'est son. Si je crois qu'ils sont mariés, dans New York District du capitaine Van Buren.
Ah, il joue dans New York District.
Oui, c'est le copain de S. Espata Merkesson, la patronne des flics dans New York District.
D'accord.
On le voit surtout dans la dernière saison quand il y a cette quand on apprend que le capitaine Van Buren a un cancer et tout, et voilà, donc on intervient un petit peu plus, on s'immisce un petit peu plus dans sa vie personnelle. Et là, bon bah ok, y a son mari qui est à ses côtés, et c'est Ernie Hudson, bien sûr.
On refera le dossier en entier.
Non mais c'est marrant parce qu'il est annoncé en tant que membre de SOS Fantôm sur le site en long en large, ils n'en parlent pas du tout de sa carrière aux séries télé.
Nous sommes là.
Alors qu'il a une gueule, son nom, personne ne le connaît, mais sa gueule, tout le monde l'a vu, quoi. C'est quand même quelqu'un qui a du charisme, il a une stature assez imposante... Non, ça va, c'est...
Ouais, et puis bon, si tu cherches sur IMDB ou sur Google sa filmographie, je suis sûr que ça doit faire quelques pages, à mon avis.
Ouais, il jouait l'un des deux flics avec Lance Henriksen dans Terminator le premier, il jouait dans Heat, dans plein de films connus de tout le monde.
Petit break musical. Groove is in the heart. Delight. Là, c'est pas un petit peu pour dégonfler, parce que quand même, l'atmosphère et tout le reste. Youhou!
The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove, 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 groove. Just lovely and delicious.
Never have I seen an earth girl quite like you. You excite my receptors and make my electrodes through. With an overpowering magnetic field, I wish to satisfy your dreams. And with an enormous rhythm pulsating, girl, you've got to scream. Pass me that bottle, baby. Yeah.
Groove is in the heart.
Non 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 non, on parlait de Bootsy Collins qui fait la base voilà
ouais,
sur
ouais,
ce morceau de Bootsy
historique voilà.
Ce morceau de Delight qui est d'ailleurs la version remix hein, vous l'avez remarqué, et donc Bootsy Collins, grande légende du funk et tout.
Non, c'est bien parce qu'on
par donne,
on fait saliver les auditeurs parce qu'on dit oui, on parle aussi de musique entre nous, enfin eux,
mais on n'est pas une émission musicale.
Eux ils parlent de musique, moi j'y connais rien mais
on est là d'abord pour parler de Mandé avec Pluto, donc d'après une histoire d'Osamu Tezuka, puisqu'on vous l'a maintes fois dans cette émission, c'est en fait un arc narratif de Astro Boy, Astro le petit robot. Ta na 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 na.
Le petit robot.
Na 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 na. Voilà, mais sauf que ça a été repris par Naoki Urasawa, à qui on doit entre autres Monster et 20th Century Boys. Donc il va en général assez sévère et tout ça, assisté de Takashi Nagasaki, qui me semble a écrit quelques romans policiers. Et là, ben, c'est une adaptation de l'histoire d'Osamu Tezuka pour l'anniversaire du maître, qui pour l'anniversaire de naissance d'Astro, pardon, excusez-moi, qui était sorti au Japon il y a 6 ans et dont Big Kana ben, est en train de traduire en France. On en est au tome 7 sur 8. Le 8e sortira en juillet.
Ah,
et pour faire un résumé, c'est pas évident. Bon, allez.
Il vaut mieux pas, quoi.
Ben, il ne reste plus qu'un seul des robots les plus puissants de la planète. Les 6 autres, eh ben, ils ont été détruits lors de leur course-poursuite contre Pluto. Pluto, donc, qui est plus puissant que les robots les plus puissants de la planète. Les robots les plus forts de la planète, c'est le nom, en fait, de l'histoire originale.
Non, c'est le robot le plus fort du monde.
Le robot le plus fort du monde, pardon. Et qui peut donc détruire ce fléau lancé par le royaume de Perse pour se venger de l'humiliation de son occupation. Alors, l'histoire des arçonnés. D'abord par le look profondément réaliste des robots. Même Astro Boy n'a ni sa culotte, ni sa coiffure en épi. Bon, faut dire qu'en 2005, il aurait pris le risque du ridicule en ressemblant à un danseur de tectonique, hein. Je sais pas. Ensuite, parce que Astro Boy meurt au premier tiers de l'histoire. Et que donc tout passait par l'enquête de l'inspecteur Gesicht.
Bravo! Bien joué.
Ouais. Je me suis pas planté sur.
On est fiers de toi, Xavier.
Je me suis pas planté sur le prompteur. Super.
Fais péter le champagne.
Pas de suite. Attends. On est encore à l'antenne. Et que donc tout passe, c'est par l'enquête de l'inspecteur Gesicht.
Ah.
La chronique devient de plus en plus difficile à faire, pas uniquement à cause de ce running gag qui dure depuis la premier tome de cette histoire, mais aussi parce que si vous n'avez pas plongé dans ce fantastique remake, je risque de trop en dire, ce qui serait franchement dommage. C'est vraiment, c'est une série qui nous a retourné, qui nous a scotché, qui nous scie, et dont on attend la fin avec impatience. Et donc, si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment, après vous allez nous haïr qu'on en ait trop dit. Mais ce qui est encore plus intéressant que l'intrigue elle-même, ce sont les textes annexes à l'histoire dessinée. Ainsi, le critique de bande dessinée Gorot Yamada raconte à la fin du tome 6 qu'il avait, comme Naoki Urasawa, lu l'aventure originale au moment où elle sortait en magazine. Et que deux éléments manquent dans la version modernisée par rapport à l'original. La cruauté et l'érotisme, ce qu'il appelle le côté sombre d'Osamu Tezuka, ce qui est normalement un tabou, surtout dans la littérature jeunesse, mais qu'il considère comme justement la meilleure preuve de la maîtrise du dieu du manga. Le petit nom d'Osamu Tezuka, auprès des fans de BD.
Non, mais ce qui est fou, c'est que quand tu penses à Astro Boy, tu penses pas forcément à érotisme.
Et quand tu regardes Uran, avec la même culotte que Tezuka,
Qu'Astro.
Qu'Astro, oui. Tezuka, lui, c'est
aujourd'hui, il scoop, Tezuka se balade en culotte.
Enfin, non, mais de toute façon, il avait fait des BD ouvertement érotiques, ainsi que des films érotiques, hein. Il a fait un Cléopâtre, qui est resté dans les annales.
Bravo.
Désolé, mais il a fait aussi des trucs qui étaient assez noirs sur la cruauté et tout ça, notamment dans sa série autour du Phénix. Mais là, c'est la manière dont il aborde ces sujets justement pour un public enfantin qui en fait vraiment sa particularité. C'est là où on voit que c'est un maître, c'est-à-dire que ça n'est pas complètement tabou et qu'il arrive malgré tout à le rendre pas trop choquant. Et c'est ça qui est fort. Alors que c'est un dessinateur des années 50-60. Astro quand même est arrivé en 1957, enfin bon voilà. Le final de la série devrait donc être traduite en juillet, mais du coup il nous manque vraiment la comparaison avec l'histoire originale. La réédition la plus récente de la série Astro est dans la collection Sensei du même éditeur, Kana. À mon avis, je crois qu'il vaut mieux la lire dans la collection Kana, aux éditions Kana, que la première traduction qui avait été faite par Glénat, où toutes les planches avaient été retournées, où ils étaient partis de la traduction américaine et sans les trames. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Duce, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, tu me regardais avec insistance ici. Ouais.
Non, j'écoute, je suis tutouille.
Il s'appelle comment l'inspecteur?
Ezicht. Très bien. D'après donc l'histoire d'Osamu Tezuka, reprise par Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki, Pluto, le tome 7 sur 8 donc, est sorti dans la collection Big Kana chez Kana. Franchement, c'est the coup de cœur. Et on va continuer avec Nora, dont les trois premiers tomes sont sortis chez Kana. Je voulais prendre... Non, en fait, on m'a shippé les tomes pour les lire avant que je puisse les lire. Donc, c'est de Hiroshi Shibashi et c'est l'histoire d'un humain ordinaire, un jeune garçon qui va au collège, qui est en 6e, Riko Nora. Du moins, il aimerait être vraiment ordinaire. Le problème, c'est qu'il est le fils métis du commandant suprême des yokai. Vous savez, les esprits de la nature. Ces démons qui aiment bien jouer des tours pendables aux humains. Et là, Thomas me regarde et me fait « Non,
mais c'est Pokémon, quoi. » Ah, c'est pas pareil, pardon.
Bref, Rikuo est le petit-fils du chef des yokai et d'une humaine. Et le gros problème, c'est que son grand-papa attend avec impatience qu'il se montre qu'un vrai yokai, qu'il prenne sa suite, qu'il unisse à nouveau les différents clans des esprits et qu'il mène une guerre de terreur et de plaisanterie pour regagner la crainte des hommes. Alors évidemment, Riko, lui, ça ne plaît pas vraiment. Pour lui, les esprits peuvent vivre en paix avec les humains. Et puis, il essaie d'avoir une camaraderie avec les autres élèves du collège d'hommes qu'il fréquente. Déjà, il sait plus ou moins que des yokai sont constitués en garde rapprochée près de lui sur ordre du patriarche et seraient donc susceptibles soit de s'être métamorphosés en collégien, soit d'hanter des corps et des objets. L'autre problème, c'est que quand on est collégien, on aime bien les histoires qui font peur. Et on aime bien explorer les maisons abandonnées.
Ah, c'est fou d'admettre un peu.
Riku aimerait bien suivre ses petits camarades, mais ça l'embêterait pas qu'un peu si jamais ses amis rencontrent de vrais yokai dans les maisons fantomatiques. Bref, ça va pas être facile, quoi. Surtout qu'en guise de copain, il y a Kiyo Tsugu, fils de riche et passionné d'occultisme, qui chasse avidement la preuve de l'existence des esprits parmi les humains. Et Yura Keikan, une fille très réservée, très, très timide et tout, comme ça, qui paie pas de mine. Et qui se trouve être une apprentie Onmyoji, c'est-à-dire une chasseuse d'esprits malins. Inutile de dire qu'à la fois pour lui-même et sa famille, il a intérêt à faire très attention. À ramener la prétendante au rôle de meilleure chasseuse de yokai dans la maison du chef des yokai, bravo.
Ah, ça me fait penser un peu à une version japonaise de Histoire de fantômes chinois, sauf que je suis remplacé fantôme par des yokai.
Ah, c'est pas impossible.
Je me disais qu'il y avait une petite réminiscence, mais j'arrivais pas à mettre.
Sauf que c'est bon à l'heure actuelle et ça se passe pas dans la Chine médiévale, pseudo fantastique avec des shurikens qui font un mètre de diamètre et tout le reste.
Oh, non, shuriken c'est japonais.
Les shurikens dans l'histoire sont chinois. Bon, pour en revenir à Nora, le problème c'est qu'un chef des yukai qui est un humain et qui prône la paix, ça fait un petit peu fillette quoi. Inutile de dire que dans les clans des yukai, ça râle, ça grogne, ça fomente du complot. Ah oui, on choisit ses copains et rarement les obligés de sa famille. Alors c'est du shonen, c'est parfaitement mainstream, c'est donc formaté, plus une suite de gags et de petites aventures qu'une grande épopée dramatique, moi au début. Car une intrigue commence à s'installer avec des tentatives de renversement du patriarche et tout ça. Et on se dit, ah, mais il y a quand même quelque chose dans cette série. La série est marrante par le côté totalement décalé. La prestigieuse cour suprême des yokai vivote dans une maison complètement à l'abandon. Le grand chef se nourrit en allant au restaurant et en s'enfuyant avant de payer la note. Bah oui, ils ont pas de sous. Ce sont de sacrés bras cassés quand même. Mais le bestiaire est graphiquement fantastique face à l'univers moderne des hommes. Bref, il y a des idées qui sont vraiment intéressantes dans la série Nora, donc dessinée par Hiroshi Shibashi. Les trois premiers tomes donc sont traduits en français chez Kana. Je me suis trompé, je me suis rendu compte que j'ai foutu le fond qu'il ne fallait pas, ou un truc comme ça. Non. Bon, en fait, tout est prêt. Donc, générique pour toi, Thomas. Thomas, ma foi, qu'est-ce qui s'approche? On est bientôt le mois de mai.
Non, mais j'ai deux BD à chroniquer, je te signale. Mais...
Oh putain.
Oui, et moi aussi.
Ah, en plus, il a du comics, ouais.
Ouais, un peu, quoi.
D'accord. On
juste un peu, hein.
Oui.
Allez.
C'est un gros blanc. J'ai juste l'air con. juste
ça,
l'air
ça
très con.
Ça se voit pas à la radio.
Non, ça se voit pas, non. Ça... je crois qu'on a du fantastique. Hein.
Parfait. Donc, nous avons aujourd'hui l'artbook Dofus 2.0 Free Ghost Art. Donc, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc c'est un artbook... j'ai oublié mon marque-page dedans. Donc c'est un artbook consacré à une île qui s'appelle Free Ghost dans le jeu vidéo Dofus. Et pourquoi j'en parle ici? Évidemment, c'est pas obligé d'avoir joué au jeu avant pour apprécier cet artbook. Parce que ça, c'est, bon, comme les artbooks, ça s'adresse plutôt à des graphistes ou des amateurs de belles illustrations. Alors c'est un artbook qui revient sur la création des décors, sur les objets, sur les personnages... Alors, qu'est-ce que Dofus à la base? Donc, c'est un jeu vidéo qui s'appelle, ça s'appelle un MMORPG. Donc,
ce sont Meuporg.
Des Meuporg. Donc, ce sont des jeux de rôle, des jeux d'aventure à univers persistant. C'est-à-dire que quand vous jouez pas, l'univers continue parce qu'il y a d'autres joueurs. C'est un jeu massivement multijoueur. Et donc vous incarnez des différentes classes de personnages. Vous avez des Yop qui sont plutôt des bourrins. Vous avez des sacrieurs. Vous avez des salidas qui sont plus en communion avec la nature. Voilà, ça fait appel un peu à l'imagerie, voilà, bestiaire fantastique, heroic fantasy, des jeux de rôle, voilà, comme World of Warcraft ou des jeux de ce type-là. Donc, c'est un artbook consacré à l'île Free Ghost, puisque c'est l'éditeur Ankama Games, Ankama qui a créé cette île pour rajouter du contenu dans le monde de Dofus.
Et alors, on va un petit peu expliquer la galaxie Ankama. Ankama, c'est une agence web qui a créé donc un jeu en Flash, qui à partir de là a fait tout un univers. C'est principalement donc une boîte de jeux. Qui est à côté, a une équipe de dessinateurs pour le dessin animé dérivé et une autre équipe de production pour tout ce qui est bande dessinée.
Voilà, donc
qui est éditeur de bande dessinée
et qui est éditeur de presse aussi, de voilà. Magazine quand on a parlé de Akiba Manga la semaine dernière, il y a 2 semaines.
Voilà, et on vous renvoie vers les interviews de Tot et de Ron dans cette émission.
Alors si vous connaissez un peu, vous verrez des illustrations de Maliki, enfin de Souillon, vous avez en plus ils sont spécialistes donc vous voyez il y a des décors qui sont assez bien poussés et tout. Donc vous avez aussi la signature de la patte d'Ankama, c'est-à-dire des jeux de mots foireux tout le temps. Donc par exemple, vous avez des accessoires comme des bottes qui s'appellent les bottes Octone, l'anneau Tabene, le talisman d'Oline. Vous avez aussi le château de Arebourg, puisque c'est le comte Arebourg qui l'occupe. Et alors vous avez une nana, à un moment donné, c'est un personnage, elle s'appelle Valérie Domida. Voilà, vous avez plein de gags de partout. Vous avez des petits gags graphiques un peu en style BD, rough, pour ce sont des personnages qui commentent un peu ce qu'ils voient dans l'artbook aussi, donc c'est très rigolo. Donc voilà, vous avez même Hugo Frey, qui est un espèce de marin moustachu avec une pipe. Voilà, mais Frey écrit F-R-A-I-S. Voilà, voilà, c'est bourré de petites blagues. Il y a aussi une petite fille qui s'appelle Sylvie Barbe, référence à Sylve Barbe dans Le Seigneur des Anneaux. Bon voilà, vous avez Lucette Lubrifiant, et voilà. Donc voilà, c'est que des blagues à la con un peu partout.
Tu es plus en train de chroniquer les vannes que les dessins.
L'Almanach Vermo.
Voilà. Ça, oui, un petit peu.
Bon, bref, je vais m'arrêter là pour les.
C'est
pour
on n'est pas RTL, hein. RTL, c'est de l'autre côté sur la bande FM.
Donc voilà, l'artbook Dofus 2.0 Free Ghost Art, ça s'adresse principalement aux graphistes ou aux gamers ou aux adorateurs de cet univers-là. Mais bon voilà, ça reste quand même un artbook d'excellente facture. Vous avez dit, pas très cher. Et puis en plus, le son est apporté au papier en vernis sélectif. Donc voilà.
Voilà, sachant que ce sont des bouquins plutôt de bonne qualité. Et qu'en plus, l'univers de Dofus, c'est vraiment un livre qui est childish, hein, je veux dire, hein, qui est plus enfantin que vraiment purement ado. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture graphique et scénaristique à la fois pour parce que ça a été prévu pour toucher aussi les enfants de collège et de primaire sans trop de problèmes, tout comme pour les adultes, c'est le petit bonus quoi, tous les jeux de mots.
Voilà, donc on rappelle les références Dofus 2.0, l'artbook consacré à Free Ghost, et c'est édité chez Ankama, c'est un.
Il y a pas mal de leçons sur.
Oui, il y a des roughs.
Sur la perspective cavalière.
Voilà, vous avez les roughs, vous avez l'image finale en rendu vectorisé. Ouais, vous avez pas mal de styles graphiques. On va enchaîner avec l'album suivant.
Qui est dans le même univers.
Voilà, qui est toujours. Bah oui, exactement, puisque c'est l'univers Dofus Wakfu. Donc les BD, c'est Xavier qui les a. Donc ça s'appelle Wakfu, Les Larmes de Sang, tome 1 et 2. C'est dessiné, scénarisé par Grégory Charlier, toujours chez Ankama. Alors justement, là, on arrive à une classe particulière de personnages qui sont les Sacrieurs. Alors voilà, Silas est un jeune Sacrieur, une race de guerriers dont le grand pouvoir naît de leurs souffrances et de leurs blessures. Alors c'est-à-dire que plus ils sont blessés et plus c'est des offrandes de sang à la déesse. Qui les protège et donc ils vont être plus puissants ensuite.
En fait, c'est gothique. Par la puissance de mon désespoir.
Voilà, mais là, c'est pas vraiment désespoir, c'est plutôt la blessure et la souffrance. Alors, ses parents, ils ont été assassinés sous ses yeux par un monstre quand il était petit.
Il devait être vachement vénère.
Enfin, il était jeune, ouais, il était super vénère. Il a pas su les protéger, donc c'est la honte pour un Sacrieur. Alors, il est recueilli ensuite par la douce Naïma qui va panser lentement ses plaies et tandis qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais Naïma, a un secret terrible. Alors qu'elle est détestée et pourchassée par diverses créatures, Silas ira jusqu'au bout pour la protéger aux limites de sa propre vie. Alors voilà, c'est un comme les Sacrieurs, ce sont des personnages qui vont au bout de leur vie, au bout des limites. Plus ils s'en prennent dans la tronche, plus ils deviennent forts. Alors moi, ça m'a fait vachement penser au Super Saiyan de DBZ. Je pense que ça doit être une référence plus ou moins avouée par les créateurs du jeu, qui ne sont jamais cachés de faire des références au manga. Et alors voilà, donc si vous aimez bien les gros bourrins qui plus ils sont blessés, plus ouais, je vais te sortir ma technique super limite qu'on m'a défendu d'utiliser parce que c'est trop dangereux pour mon propre corps, mais je la balance quand même. Et donc la l'attaque arrive, elle fait un peu mal à l'ennemi, mais il est toujours pas mort. Et oui, mais apparaît dans les rêves son ancêtre qui lui dit: allons petit, la puissance n'est rien, c'est le cœur qui dirige tout, je suis sûr que tu peux le battre. Mais oui, je sais, je vais encore me relever, papa. Voilà, donc c'est un peu ce système-là. Graphiquement, c'est une BD qui fonctionne très très bien, malgré un style pas très approprié selon moi aux situations de un peu romantique et de comédie pure. Mais c'est vrai que ce trait un peu nerveux.
Excuse-moi.
Ce trait un peu nerveux qui joue sur les pleins et déliés, ça c'est pas particulièrement approprié pour les grosses scènes de baston. Et c'est vrai que les scènes de baston sont particulièrement efficaces. Voilà, scénario et se révèle assez complexe à suivre parce qu'il faut connaître un peu la mythologie de Wakfu pour apprécier toutes les subtilités. C'est-à-dire, par exemple, il y a un pouvoir qu'ont les Sacrieurs, c'est échanger leur position avec un autre personnage pour prendre des dégâts à leur place. Donc ça, c'est vraiment le style jeu de rôle avec MMORPG dans les jeux vidéo. Donc c'est
Meuporg.
Voilà, les Meuporg. Voilà, si vous aimez les quêtes initiatiques et les grosses bonnes bastons, voilà, bon, c'est une BD qui se laisse lire et qui est vraiment qui est correct au niveau graphique. Ouais, on passe un bon moment à les lire.
Et c'est plutôt bien réussi. Les couleurs sont extrêmement saturées.
Bah, ça dépend. Les scènes qui se passent dans la nature et puis il y a des accalmies, c'est un peu saturé, mais le reste ça va.
Et puis il y a des personnages humains féminins à poitrine format. Enfin, ça prend toute la largeur de la case. Hein.
Ouais, c'est pas trop du fan service. On n'est pas dans ce style-là en fait.
Oui,
on
ça reste couvert. Hein, ça reste couvert.
Oui. Mais c'est plus. En fait, les nanas, tu aperçois que à part celle dont il est amoureux, on s'en fout un peu puisque le reste c'est souvent des gros bourrins qui se lattent la gueule. Mais bon, voilà. Donc Wakfu, les larmes de sang, tome 1 et 2, puisque voilà, le tome 2 vient de sortir, et par Grégory Charlet, chez Ankama.
Voilà, et puis si vous voulez du tabou et des organes sexuels et génitaux, par les deux, sachez que ce matin, Boulet l'a publié son dessin de sa bite.
Les questions de philosophe à poil.
Voilà, était très bon, très très bon. Du sport, lui, il nous dit « Ah, tu veux du super-pouvoir ? Attends, mais mon coco, mais je vais t'en sortir du super-pouvoir et je vais t'en sortir du médiéval fantastique. »
À coup de marteau. Ah.
Dans la chetron.
Avec la sortie qui est pas récente, hein, ça fait quand même pratiquement un mois qu'il est sorti. En attendant, justement, le numéro 70 de Comic Box qui fêtera les 8 ans d'existence de la nouvelle série.
Oui, parce que ça a été assez chaotique, hein, Comic Box. Ça, ils ont eu 3 éditeurs, il me semble.
Ouais, je crois. Comme non, ça. Mais là, pour l'instant,
ça tient.
Pour l'instant, ça tient, c'est ça. Et donc, pour le nouveau numéro qui devrait sortir par la fin du mois, mais je pense en mai, qui va être un numéro spécial, hein, qui a été annoncé avec un grand renfort de publicité. Attention, on va vous en mettre plein la vue et tout, c'est un numéro spécial tout droit. Eh bien avant, il y a un petit spécial, un hors-série, et c'est le premier hein, d'ailleurs hein, qu'ils font sur un super-héros. Et c'est tout à fait d'actualité parce qu'il s'agit de Thor. Tout simplement, parce que film...
Non, tu me fais pas une intro comme ça d'un dieu de cette manière-là. Attends, c'est Thor, quoi. Dont le venu du voilà
dans le film de
Kenneth Branagh, voilà.
Le film de Kenneth Branagh donc sort le 27,
dont on n'aurait jamais cru ce nom associé à du super héros.
Oui, mais alors vraiment pas.
En creusant tu sais il y a quand même si
bon,
si
d'accord.
Alors donc c'est vraiment très bien foutu parce que on y apprend vraiment absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ce super-héros. Alors, on sait qu'il est tombé un petit peu dans l'oubli, je vous avais rappelé qui était Thor il y a à peu près 3 ans ou 4 ans. Quand il y avait eu le renouveau de Thor sous la plume de J.M. Straczynski. Et d'Olivier Coipel, hein, c'était la nouvelle série donc de Thor qui sortait, qui là cartonne bien quand même. Et à l'occasion de la sortie du film, on nous fait un numéro suivant. Alors on a vraiment que du bon.
On t'a dit sorti le 27 avril.
Le 27 avril, hein, dans 15 jours, donc un petit peu moins de 15 jours, donc pas le mercredi qui vient, mercredi en 8. Donc. Alors tout d'abord un petit article qui fait quand même 2 pages sur Marvel et sur la position actuelle de Marvel dans l'univers du comics, hein, une position qui n'est pas négligeable on va dire.
Une position assise, hein, je veux dire.
Ils sont tranquilles. Ensuite, on passe à l'interview de Kevin Feige qui est le patron de Marvel Studios. D'accord, Feige qui vient un petit peu du monde de Disney,
faut expliquer, Marvel Studios c'est une structure qui a été fondée au sein de Marvel pour qu'ils produisent désormais en interne et qu'ils ne confient pas en franchise à d'autres studios, à d'autres majors du cinéma, donc ils produisent vraiment en interne leurs films désormais, contrairement à DC où DC c'est Warner Bros.
Voilà,
c'est le même groupe.
C'est aussi parce que on sait qu'ils ont eu des problèmes, enfin Marvel a eu quelques petits problèmes éditoriaux.
avec Fox qui avait sorti le premier X-Men.
Oui, et les dessins animés, Marvel voulait faire ça, voulait faire une série en live qui s'appelait Factor X, je sais plus.
Weapon X plutôt.
Weapon X, oui, qu'ils ont produit au Canada, qui était une catastrophe, mais ils étaient hyper emmerdés parce qu'ils pouvaient pas appeler X-Men, donc ils ont fait des personnages qui s'approchaient
voilà,
plus
c'est ça.
Possible.
Et Factor X, c'est autre chose, hein, c'est X-Factor.
Ouais, enfin, c'est de la merde quand même.
C'est ce que tu regardes à la télé.
Non, c'est de la merde quand même. Tu donc, veux une chaise là dans la
gueule. Kevin Feige qui là dans cette petite interview hein, parce que bon bah c'est dit en préambule et tout quoi, l'interview a duré 12 minutes 51 secondes parce que le mec est quand même vachement occupé quoi, tu vois hein, c'est quand même lui le grand boss et tout, mais là c'est bien parce qu'il nous fait vraiment la ligne de tout ce que va développer Marvel. Et on apprend ce qu'on supputait déjà un petit peu hein, parce que bon on regarde les sorties des différents films de super-héros. Bon, on a Iron Man dont le numéro 3 est déjà en tournage. On a les Vengeurs, ce sera l'année prochaine. Et là, ouais. On voit que c'est vraiment un truc qui est bien pensé et que justement dans les films qui sont déjà sortis, eh bien on voit des apparitions comme ça oui. Furtives après générique et des trucs comme ça. À quoi ça sert ?
C'est l'effet. C'est l'effet. Ouais. One more thing, vous êtes resté jusqu'à la fin du générique, bonus.
Ouais ouais non mais bon on se dit oh ouais mais c'est super, attends là j'ai aperçu l'ombre de mais ce n'est pas le bouclier de Captain America que j'ai vu là.
Mais à la fin du premier Iron Man, il y avait une allusion à Hulk. Il y a le dans le deuxième dont j'ai dit oui Iron Man oui dans le deuxième Iron Man on voit le bouclier de Captain America qui sert oui. De cale pour son bureau à la fin
mais c'est quoi ce truc aussi.
À la fin de ce film on a le marteau de Thor qui est retrouvé au Nouveau-Mexique
voilà hein, hein. Et c'est la même base d'ailleurs hein, que le départ de la BD de Straczynski quoi, c'est ça qui est assez rigolo. D'accord. Mais en fait c'est parce que c'est une stratégie qui est vachement bien pensée et qui doit amener les spectateurs qui ne sont pas forcément des familiers de l'univers Marvel et l'univers des comics en général, eh bien à avoir une continuité dans les films qu'ils vont voir. Et
si vous avez aimé ce film, allez voilà. Voir celui-là là-bas.
Non, parce que justement, bah il y a quelques petits liens qui se créent comme ça au fur et à mesure des films et tout pour arriver à ce qui va être l'équipe des super-héros, à savoir les Vengeurs. Pour l'instant, c'est ça le
gros truc. Jackson.
Voilà, donc ça c'est Kevin Feige. Ensuite. L'explicatif bien entendu hein, de Skeletor et tout, la mythologie nordique et tout, et également bah, la part de mythologie qui est propre à Marvel hein, qui ont un petit peu réinventé quelques petites choses, le créateur, le dessinateur qui a créé Thor, qui a co-créé Thor avec Stan Lee, Jack Kirby bien sûr hein, et là il y a carrément le topo de 4 pages et tout sur sa carrière, donc là c'est assez intéressant. Ensuite bien on parle un petit peu des femmes. Les femmes qui ont eu affaire à Thor, parce que bon, bah Thor c'est quand même le beau mec et tout, grand, ah, costaud et tout,
baraqué
et tout, puis bon, attends, et ça va.
L'acteur qu'ils ont pris pour le film, ça va, c'est un culturiste le mec.
Bah écoute, ensuite un petit spécial sur l'Ultimate. Thor,
il est excellent dans les Ultimates parce que c'est un gars qui est militant écologiste.
Voilà,
qui
ouais, joue, ouais.
Allez vous faire foutre, moi je suis dans mes champs, dans ma forêt.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est Et également un top 10 des plus grands ennemis de Thor.
Ah, hein, moi je connais avec, peu Thor. Alors,
Ah bah il y a Loki. Bon, il y a Loki bien sûr. Il hein, y a Hela, Surtur, quoi, Carnia.
Minute, je suis pas prêt.
Qui sont dérivés, on va
quoi,
dire.
Tu vas faire un top 5 ou quoi?
Ah bah écoute, à mon avis, c'est parti pour quoi.
Non, c'est bon, non, on a pas trop le temps, quoi. Et bon, bien sûr, il y a les BD qui sont offertes avec. Alors bon, c'est vachement con parce que là, on nous propose une BD originale, une vieille BD de Thor avec Jack Kirby. Thor de Jack Kirby, Stan Lee. Bon, c'est dommage parce que ça, celle-là, tu vois, je l'ai déjà, quoi, en version française, quoi, c'est con.
Oui, et puis,
d'époque, quoi. Alors bon, c'est dommage. Par contre,
et puis ça a peut-être, un petit peu vieilli.
Et puis je vais lâcher mon gros caca. Oui, effectivement, comme tu dis, ça a beaucoup vieilli. Enfin, moi, ça me fait pas envie.
Les couleurs comme ça,
c'est
couleurs
c'est flashy. Hein,
les couleurs offset. C'est 60s.
Là,
hein.
C'est super flashy. Il hein, n'y a
et
pas
puis,
de problème.
Et puis, il y a le dessin quand même très très lourd quand même de Kirby qui est pas. Enfin, c'est un dessin qui est. Les personnages, il aime bien faire les personnages qui sont trapus, qui ont un visage qui est assez épais.
Ouais.
C'est pas la mode actuelle du. Regarde mon muscle qui saille.
Regarde mon métrosexualisme.
Ça y est, il a sorti.
sorti. Bravo Thomas.
Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir la différence qu'il peut y avoir entre deux versions créées et réalisées par les mêmes, c'est-à-dire Stanley et Jack Kirby. Alors donc on a ça, c'est l'original et tout au départ, hein, c'est-à-dire tel que c'était sorti à l'époque. Et après on a une petite BD qui est un peu plus courte sur l'enfance de Loki, par les deux mêmes.
Ah bon?
Parler d'eux-mêmes.
Ah bah moi je préfère ça, tu vois.
Alors bon, bah là c'est vachement plus moderne et tout. On voit vachement l'évolution.
Ah ouais, là, c'est complètement désaturé. Voilà. Avec des dégradés.
Voilà, voilà. Ensuite, on a également un petit article qui est vachement sympa parce que ça parle des héros dans d'autres BD, mais qui sont également des Thor, on va dire. Et là, ça s'appelle d'ailleurs Imitator. Complètement marteau, quoi. Alors vraiment avec bon bah des personnages qui bon bah pourraient être Thor en fait quoi. On a également même une apparition d'un premier Thor qui est complètement barbu et tout, qui ressemble plus à une espèce de faune nordique quoi.
Ouais, on dirait un gars d'Astérix là.
Ouais, faudrait se méfier parce que le Thor tu.
D'accord. Ah, cherche pas ta Thor.
Oui bah oui. Désolé. Et mais il est l'heure. Hein.
Et il y a surtout alors là c'est
il est l'heure.
C'est le truc qui m'a.
Je
le
te dis
plus.
Qu'il est l'heure.
C'est le truc qui m'a le plus impressionné, c'est l'interview de Joe Sinnott. Alors Joe Sinnott, il est très peu connu dans le monde des BD, de la BD et dans le monde des comics. Mm-hmm. Et pourtant, pourquoi ? Parce que c'est pas un dessinateur, c'est un encreur. Alors donc on sait que les dessinateurs sont souvent mis en avant, mais qu'en fait les dessinateurs ne font que les crayonner. Ouais. Et qu'après, bon bah... comment on dit passer le truc, le dessin au propre.
Ils font ni les couvertures, ni l'ancrage, ni les couleurs.
Voilà.
Donc les feignants. Quoi.
Donc c'est les feignants. Mais ouais, Joe Sinnott.
J'ai vu un exemple d'une planche crayonnée. Je connaissais l'original tel qu'il avait été publié. Puis je regardais le crayonné. Il y avait plein d'erreurs de perspective. Je sais pas qui était l'encreur. C'était un jeu comics des années 90. Mais t'as des encreurs dont une partie. Ah oh, oui. Oui, il faut un boulot qui est pas négligeable.
C'est
hein.
Ça, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il écrit bien le truc.
Il faut la remise au propre, mais des fois, il faut... Oh, mais quel
boulet.
Il faut qu'il y ait une osmose de l'encreur avec le dessinateur pour que l'encreur ne trahisse pas le dessin du créateur.
Non, le chat.
Mais il faut également que l'encreur essaye d'améliorer, c'est ce que Joe Sinnott explique, d'améliorer les petites erreurs qui auraient pu être commises au niveau du dessin. Et des fois ça se passe très bien entre encreur et dessinateur, des fois ça se passe très mal aussi, hein, parce que bon, des dessinateurs des fois trouvent que les encreurs massacrent leur boulot ou en profitent pour essayer de tirer la.
Je te dis que t'as raccourci un bras, mais c'est toi qui l'as fait trop court là.
Ce type-là est chez Marvel depuis le début, c'est-à-dire que c'est lui qui a ancré les premiers Fantastic Four, c'est lui qui a ancré les premiers Thor. Galactus, toute la bande, Captain America, Daredevil, enfin bon, et c'est lui qui dessine le Spider-Man en strip, tu sais.
Oui, c'est dans les à la fin des années 70. Ouais. Non, en strip.
En strip.
En strip.
En comic strip, c'est-à-dire dans les quotidiens, dans le New Yorker
voilà,
et tout
en
ça.
Noir et blanc,
en 4 ou 5 cases quotidiennes.
Et là, bon, là, c'est vraiment le retour en arrière. On apprend vachement de choses sur l'histoire, sur la façon dont ça se passait dans les années 60 au début. C'est-à-dire, toute espèce d'esprit créatif qu'il y avait au début des années 60 où tous les super-héros ont été inventés, hein, donc surtout ceux de Marvel, ceux qu'on connaît encore aujourd'hui. Et pour cela, c'est très très intéressant. Donc c'est le Comic Box hors série spéciale numéro 1 qui est consacré à Thor, hein. C'est encore en kiosque, mais dépêchez-vous parce que bon, là, jusqu'à ce que le Comic Box 70 sorte, on pourra l'acheter. Après, ce sera un petit peu trop tard et ce serait vraiment dommage.
Tu disais Assassin's Creed.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a dans la détresse aujourd'hui?
Non, c'est parce que je sais pas pourquoi t'en parles pas. Peut-être t'es fâché avec eux, mais enfin bon. Alors moi je peux en parler. Hein, c'est parce qu'il y a quand même.
Non, c'est que je n'ai pas l'info. Je n'ai aucune info. Ils ont tous mon adresse, mais ils n'envoient pas d'infos.
Voilà, c'est ça. C'est l'association Bulle d'Ombre donc qui organise son sixième festival.
On les avait reçus il y a 4 ans.
À la salle des fêtes de l'Imerac, hein, donc c'est de l'autre côté là de la colline, du côté de la cité de l'espace. Et donc c'est à partir d'aujourd'hui, c'est toute la journée. Ça a commencé depuis 10h jusqu'à ce soir à 19h, donc avec pas mal de dessinateurs invités, dont Jilali Defali, le dessinateur d'Assassin's Creed.
La BD, donc.
La BD,
la BD,
hein.
Attention.
La BD qu'on avait chroniqué ici, que ça avait chroniqué
oui,
ici,
oui,
hein, qu'on avait vachement apprécié en plus, quoi. Hein, qui était pas.
Non,
oh là là,
qui était moins pourri. Non, qui était moins pourri que ce à quoi on pouvait ouais. s'attendre au départ.
Oui, oui, voilà. Sachant que hein l'histoire de. Sachant que l'histoire de base, quand même, aurait pu être traitée autrement, mais finalement, graphiquement, c'est vrai qu'elle est très très bien. C'est vrai que le dessinateur lui-même fait un boulot qui est formidable. C'est vrai qu'avec les consoles next-gen, c'est. C'est moins polygonal maintenant les jeux en 3D.
Ah bah heureusement, c'est plus les cent trapèzes de la raccroche.
Voilà, donc on vous rappelle, hein, c'est aujourd'hui.
Oh là.
Aujourd'hui, toute la journée, hein, salle des fêtes de l'Imerac.
Tu l'as pointu
hein.
là.
c'est le 6e festival de bande dessinée organisé par Bulle d'Ombre.
Ah tiens, il met le jingle maintenant.
Ah oui, je me suis fait avoir, ça va, merci. Là, le cinéma vous est présenté en Dolby Mono sur un Honda 13h, 4 minutes 46 secondes par Ultimatum. Bonjour.
Chicha. Alors, aujourd'hui nous parlons de chômeurs. Alors, ça donne vachement envie de voir un film qui traite de chômeurs. Et en fait, pas du tout, puisque ce film est très bien, ça s'appelle The Company Man. Alors, je vais vous donner le casting, parce que je pense que vous allez faire des gros « ouais ». On a un film de John Wells avec Ben Affleck,
yeah.
Chris Cooper,
yeah.
Tommy Lee Jones,
yeah.
Kevin Costner,
yeah.
Maria Bello,
ouais.
Craig T. Nelson,
ouais.
Et Eamon Walker.
Ah, magnifique.
Voilà, bon, bah, il y a quand même une erreur de casting en plein milieu.
Kevin Costner, bah, oh, il est excellent dedans.
Bon, d'accord, ok.
Alors, Bobby Walker.
Je crois en la rédemption.
C'est bien, c'est bien.
Je crois que Underworld était qu'une grosse erreur.
Non, Waterworld. Underworld, autre chose. C'est Kate Beckinsale en latex.
Il est excellent dans Un monde parfait, hein, de
Institute. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Bobby Walker mène une vie de rêve. Bobby Walker, qui est incarné par Ben Affleck. Il est directeur commercial d'une multinationale à Boston. Ben ouais, c'est Ben Affleck, donc c'est Boston. Gagne 160 000 dollars par an, roule en Porsche et habite une grande maison avec une famille de rêve. Et travaille son swing de golf tous les matins avant d'aller au boulot. Bon, jusque-là, rien à dire. Ben, sauf que, un matin, ben, sa boîte dégraisse et il se retrouve au chômage. Se succèdent le cabinet de reclassement personnalisé, les bilans de compétences, les coups de fil infructueux. Sa belle vie part en vrille et s'ensuit une remise en question. Et bientôt, la multinationale licencie aussi ses collègues Woodward et McCleary, donc Chris Cooper et Tommy Jones, et les trois hommes vont chuter lourdement, chacun à sa manière. Alors, malgré le fait que l'univers soit fait de stock options, de jets privés, de maisons de rêve, en fait, ce qui ressort du film, c'est pas du tout un truc sur les flambeurs, c'est un film sur son caractère humain qui ressort surtout, puisque ce sont des gens qui sont au bout du rouleau. À part Ben Affleck qui est plutôt jeune, les deux autres c'est des personnes d'un âge assez certain, donc ils ont des difficultés à... Enfin surtout Chris Cooper a vachement de difficultés à se recycler, puisqu'on lui dit « Non monsieur vous êtes trop vieux, le mec il a des poches sous les yeux mais quasiment pas maquillé, le mec tu vois qu'il a pris un coup dans l'aile le poids des ans. » Tommy Jones...
Oui, mais, non, mais lui c'est pas la peine, il se pointe avec n'importe quel CV... Le DRH de 30 ans qui n'a jamais connu le chômage, il fait « Ah mais non monsieur, vous êtes trop proche de la retraite
ben, ». Tommy Jones en fait c'est le patron de la filiale du groupe qui a commencé au plus bas échelon et qui les a tous grimpés. Et lui il est directeur il voit sa filiale qui part en petit bout par petit bout, tout, c'est du RSA jusqu'à ce que lui aussi soit touché par le licenciement. Et lui finalement c'est celui qui va, c'est le côté paternaliste, c'est quelqu'un qui se soucie du bien-être de ses employés, qui va gueuler parce que sa filiale part en ruine. Et c'est quand même le gars, on va dire, qui a des responsabilités, qui incarne aussi l'autre point positif du film avec Ben Affleck, qui est plutôt la force de l'âge et qui est quand même le gars sympathique du film. Et alors que le personnage un peu négatif qui donne du souci, c'est plutôt celui de Chris Cooper. Tommy Jones, justement, moi j'ai trouvé mais super sobre. Alors moi j'ai pas vu les derniers films chez les Trois Enterrements ou chez Inarritu, mais moi je m'étais resté à toute sa carrière qui était fait de Piège Rottmer, double face dans Batman Forever, enfin
oui, voilà.
Le mec il est en roue libre quoi, il est blown away, il est toujours en train d'en faire des tonnes, alors que là il est sobre. C'est-à-dire le mec, tu pourrais le croiser dans la rue, mais un gars crédible, quoi. Et franchement, j'ai été vraiment épaté par ce type. Dans ce film, il est vraiment extra. Kevin Costner, il est méconnaissable. C'est-à-dire que c'est un gars qui incarne un manuel, un petit chef d'entreprise, un entrepreneur qui fait des chantiers. Et là, tu vois, Kevin Costner, c'est un acteur quand même qui a une... Enfin, je dis pas au niveau du caractère, mais au niveau physique, il a une grosse tête, ce type. Et il a une tête assez clairsommée au niveau des cheveux. Et ça, tu sens que c'est un mec qui a roulé sa bosse et qui est très crédible en chemise canadienne et en tout crade, et qui va faire les charpentes et tout. Et il est vraiment, moi je suis étonné qu'on ait pas pensé à lui pour des rôles comme ça jusqu'à présent. Il était toujours le guerrier, le Robin des Bois, le beau gosse, mais finalement il est beaucoup plus efficace dans le gars qui va mettre la main dans le cambouis et qui va être dans les crottes et dans l'herbe et aller travailler, buriné par le soleil et tout. Franchement, il est aussi nickel. Alors voilà, casting en béton armé. Le scénario, on aurait pu croire en voyant le pitch. Bon voilà, trois hommes qui se retrouvent au chômage. Alors c'est le côté social du film, mais en fait pas du tout. C'est plutôt une quotidienneté. Tu vois, vraiment au fur et à mesure, le doute qui s'installe dans la tête de ces trois gars. Le film commence par une multinationale et finit vraiment dans le trois gars qui arrivent peu ou prou à se recycler. C'est vraiment un truc humain, c'est un scénario qui est proche, qui nous parle. Bon, après le fait que ce soit des gens qui gagnent beaucoup de pognon au début, bon, ça nous éloigne un petit peu de leur situation, mais au fur et à mesure, ils vont devoir reconsidérer les priorités, revendre des voitures, etc. Alors que, à un moment donné, dans d'autres mains, t'aurais pu croire, ouais, finalement, c'est super moraliste, à la fin, ils se retrouvent à jouer avec les gamins dans l'herbe, avec un beau coucher de soleil, ah, c'est trop bien, se retrouver à la rue, c'est vraiment cool, parce que je retrouve les joies de la vraie existence, la vraie vie, c'est ça, c'est jouer avec les gamins, aller les accompagner à l'école, alors qu'avant, c'était vraiment les Porsche, le swing, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout un peu mielleux, c'est pas du tout ça, c'est, voilà, tu t'attardes vraiment sur ce coup du sort qui tombe sur la gueule de ces trois mecs, et malgré le fait que ce soit des gars qui palpent beaucoup, ils sont sympathiques. Mais franchement, le film, c'est vraiment une bonne surprise, la bonne surprise de ce printemps cinéma pour moi, pour l'instant. C'est une surprise aussi de retrouver ces acteurs-là dans ces rôles-là. Et tout le monde est nickel. Imon Walker aussi. Enfin bon, voilà. The Company Man, je vous recommande, de John Wells, avec donc le casting, je vais pas revenir dessus, Ben Affleck, Chris Cooper, Tommy Jones, et il est sorti il y a pas très longtemps, il est encore au cinéma. Moi je l'ai vu en VF, mais bien sûr à voir en VO, parce que des acteurs de cette trempe-là, burinés, avec des voix, je pense qu'ils doivent être bien rocailleuses et tout, ça doit bien le faire, je pense.
Un peu de glamour, un petit peu. Allez. De positif, un petit peu de beau temps, un petit peu de sable dans les cheveux et un petit peu de flash dans les yeux. C'est l'heure des...
C'est l'heure de la page Cannes.
Sélection...
Non, Cannes, c'est...
Ouin, ouin, ouin. Ouais, non, mais c'était quand tu allais dire sélection cannoise. Ouin, ouin.
Voilà, sélection ouin. Cannoise. Ouin, programme ouin. Cannes 2011.
Ouin, ouin. Ouin.
Avec présidente de ce festival, il me semble que c'est Jodie Foster.
Ouais, bon, c'est pas Carla.
C'est De Niro.
De Niro. C'est De Niro le président de.
Oui.
Ah ouais. Ah, je sais pas moi. J'ai pas regardé.
Allez, programme.
C'est Robert De Niro cette
année. Oui.
Ah bon, d'accord. C'est De Niro alors. Bon, je crois que c'était Jodie Foster. Je sais pas pourquoi. Bon. Ouais. Et en même temps, ils sont tournés ensemble dans Taxi Driver, donc je n'étais pas si loin.
Ah oui.
Alors, c'est marrant, je vais commencer par une blague, puisque...
Deux.
Alors... Ah, il fait un top, si tu veux.
Un, ça représente... Non, merde, c'est Hugo Cid, donc je sais pas qui est le président. Pardon, j'allais t'exploser la gueule.
Alors, si je vous dis réalisateur présent, Festival de Cannes, c'est toujours les mêmes. Allez, citez-moi
des noms. Tarantino.
Non, ouais, bon, Tarantino, il fait un film tous les 4 ans, alors il va pas y être
Almodovar.
À chaque année. Gagné. Ouais. À toi du sport.
Non mais
le premier qui sèche.
Non, parce que moi je triche parce que je connais. Je connais la sélection.
Alors Xavier,
j'ai entendu parler. Alors, ce qui est vachement marrant, moi je dirais que c'est des habitués du festival. Ce sont des gens qui chaque fois qu'ils font un film sont sûrs d'être sélectionnés.
Ça c'est pénible.
Hein, ça n'enlève rien à la qualité des films qui vont être présentés, hein, qui vont certainement être appréciés par beaucoup de gens.
Il faudra bien un film iranien tourné par un dissident à la vidéo 8.
Oui, en plus, ce qui est dommage dans ce que tu dis du sport, c'est que t'as l'impression qu'il suffit de s'appeler Almodovar. Tu fais un film qui est prêt une semaine avant Cannes, tu vas pas me faire croire non plus que les organisateurs, ils ont vu son film, ils disent « Oh, mais tu mérites d'être dans la sélection, dis-moi, parce que c'est vraiment très fort ce que tu fais. Il suffit d'avoir un grand nom et tu es à Cannes. » Voilà, donc Xavier a cité Almodovar, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ? Xavier, Danny Moretti, Lars von Trier, les frères Dardenne,
Gus
Van Sant, ben voilà.
Alain Cavalier, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu.
Oui, c'est vrai, oui. Alors par contre...
C'est assez marrant, mais il faudrait vérifier, mais alors il y a Alain Cavalier, mais il y a également Bertrand Bonello, et je crois qu'ils avaient déjà été sélectionnés à Cannes la même année, en même temps.
Alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que tout le monde déjà s'excite là-dessus, c'est qu'il y aura la conquête de Xavier Duringer sur la conquête du pouvoir par Sarkozy, et il y aura aussi Midnight in Paris de Woody Allen avec Carla Bruni,
oui,
Sarkozy.
Ça, c'est le film d'ouverture.
Il y aura aussi Pirates des Caraïbes 4, voilà, pour la montée des marches. On aura aussi...
Bon, alors, vas-y, parce que moi j'ai le nom du président du jeu.
Le film réalisé par Jodie Foster avec Mel Gibson. Alors vas-y.
Jury des longs métrages, je suppose c'est celui-là que tu veux, Robert De Niro. Jury de la Ciné Fondation et courts métrages, Michel Gondry. Jury Un Certain Regard, Emir Kusturica. Jury de la Caméra d'Or, John Ho Bong.
Qui?
John Ho Bong.
Bong Joon-ho, le réalisateur coréen. Ouais.
Oui, pardon.
Non mais voilà, donc tu avais raison du sport sur De Niro.
Celui-là. Ah bah tiens, ah.
Alors par
donc
contre,
ceux-là ils sont présents, voilà. Okay.
Par contre, il y aura la présence de deux réalisateurs que j'ai sélectionnés, mais je pensais faire une surprise à du sport, je ne savais pas qu'il était au courant de cette sélection. Alors évidemment, si je vous dis Pusher, Bronson et Valhalla Rising, eh bien c'est Nicolas Winding Refn qui sera là, puisque alors ça, le pitch de son film, ça s'appelle Drive. Alors ce sera l'histoire d'un cascadeur hollywoodien qui prend son pied à conduire comme un maboule pour des malfrats lors de braquages de banque. On s'est adapté d'un roman de James Salis. Le film est présenté en compétition officielle pour Cannes. Et c'est le film a la particularité que le premier associé à ce film, c'était pas le réalisateur, c'était l'acteur qui a choisi Winnie Refn pour réaliser le film. Donc c'est la première fois que ce réalisateur fera un film américain. Voilà, c'est un réalisateur danois. Et alors, il n'y a pas de trace de Mads Mikkelsen, malheureusement. Mais il y a Ron Perlman. Voilà. Et donc évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence la présence de notre barjo préféré, Takashi Miike à Cannes.
Oh putain, va avoir du sang, du foutre, l'alcool, de la coke et la remise de Hot Door. Alors.
Et donc ça s'appelle Harakiri Death of a Samurai et c'est un remake en 3D d'un film de samouraï des années 60. Réalisé à l'origine en 62 par Masaki Kobayashi. Voilà, un film de samouraï. Et je crois que j'ai chopé la bande-annonce sur le net et je savais pas que c'était ce
film-là. Pas le réalisateur de Ichi the Killer, moi j'attends de voir.
Par Ichi the Killer, Audition, La Maison des Sévices, Gozu, la trilogie des Dead or Alive. Bon, voilà.
Ouais, il adore quand il y a du sang. Hein. Il adore quand les lames sont bien effilées. Donc, à mon avis, le tournage a dû être sans nigolant.
Sanguinolent, et on suivra la vengeance d'un samouraï contre un seigneur féodal qui a poussé son beau-fils à se suicider avec sa propre épée. Voilà, donc il y aura vraiment du sang. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la programmation de Cannes.
Là, t'as oublié Terrence Malick.
Oui, voilà. The Tree of Life de Terrence Malick. Alors, je sais plus qui c'est qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a Sean Penn, puisque c'est un acteur fétiche, je crois qu'il y a Sean Penn dedans. Et il y a également, je passe sous silence, il y aura Aki Kaurismäki, un autre habitué, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de Cannes.
Coin.
Nous a dit juste qu'on restait dans Cannes avec ta chronique. Puisqu'il y a un lien avec le festival de Cannes, tu m'as dit, dans ta sélection. Dans l'intitulé.
Non, j'étais sur les séries là pour l'instant.
D'accord, ouais.
Ça n'a rien à voir.
D'accord.
Pour l'instant, quoi. Les séries, pas énormément. De bonnes choses nouvelles, inédites, on va dire.
La quatrième saison de La Flanders.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Hier.
Ou la sixième saison de Doctor House qui démarrera mardi prochain sur TF1 à 20h45.
Et sur Arte, une rediff.
oui, mais bon, je voulais pas le faire, quoi, tu vois, je voulais pas le faire, sinon je t'aurais dit, ouais, calme-moi.
Non, parce que ce qui est intéressant avec Arte, c'est surtout, c'est le dossier qu'il y a sur leur site web qui est vraiment passionnant. Hein,
ouais, Twin Peaks, donc, c'est à partir de mardi prochain. Nouveau,
voilà, comme ça on a parlé de Cannes avec Twin Peaks. Voilà.
Hein, Twin Peaks, c'est une nouvelle série ?
Non, la série. La série pour les 20 ans.
Et qui sera diffusée où ça ?
Mardi soir en deuxième partie. Ouais. Mardi soir 22h30 sur Arte, oui.
Voilà, après
normalement, il y a de la VO mais c'est pas garanti avec Arte.
Après les deux documentaires du mardi sur Arte.
Ah bah c'est cool, il y a pas Ligue des Champions en même temps, je vais pouvoir voir alors.
Non. Il y a
T'es puni.
Une semi inédite, on va dire, c'est la série 13 qui redémarre sur Canal+ lundi à 20h50. Ah, il y avait déjà une mini-série qui avait été tournée, qui avait relativement bien marché avec Steven Dorff dans le rôle titre.
Et Val Kilmer.
Et malheureusement, quand on a décidé, au vu du succès de cette première mini-série, de tourner une autre série, Steven Dorff n'était pas disponible pour reprendre le rôle.
Il n'y a pas que ça le problème, il n'y a que le problème, ça se finit en même temps que l'album 13 contre 1, et c'est la partie intéressante de 13. Après, c'est que du remplissage. Donc je me demande avec quoi ils vont remplir.
C'est la suite alors de ce téléfilm.
On va voir. Hein, toute façon,
mais il y a qu'un casting anglophone. Hein,
Et il y a pas le retour de Val Kilmer dedans.
Alors anglophone.
Surprise.
Pas tout à fait raison.
Oui, mais c'est tourné en anglais, voilà.
Donc expliquons par d'abord Canal. L'absence de Steven Dorff qui, lorsque le tournage a repris pour 13, était en même temps pris par le tournage du film de Coppola, Somewhere.
Ah merde.
Et donc bah voilà. Et ils
Sofia alors.
De Sofia Coppola.
Oui, parce que il est, d'accord.
Oui, Sofia Coppola bien sûr. Et donc bah il a fallu se porter sur un autre acteur et c'est Stuart Townsend qui va reprendre le rôle de 13. Donc bon ça va, hein, on n'est pas perdant. Et on a également changé.
En même temps, le personnage s'était fait refaire le visage, mais là, elle va avoir encore plus une perte d'identité. Hein.
Voilà, on remplace également l'actrice qui avait interprété le rôle de Jones dans la série. C'était Lucinda Davis dans la précédente série. Là, ce sera Aisha Tyler. Et tu citais Val Kilmer dans la précédente série. Là, ben, on aura quand même droit à Tom Berenger. Virginie Ledoyen.
Tom Béranger, attends, il va interpréter un salaud?
Bon, à ton avis. 13 donc.
Virginie Ledoyen, d'accord.
13 épisodes de cette nouvelle série, hein, des épisodes de 45 minutes, une série qui a quand même coûté la bagatelle de 21 millions d'euros. Hein,
ouais, 1 million d'euros par épisode, d'après ce que j'ai compris.
Ah, ça fait un épisode alors.
Ça fait le prix que paie une chaîne américaine pour une série américaine. De prime time, donc c'est moitié prix en fait qu'une vraie série américaine.
Ouais, c'est pratiquement le fric que touche Charlie Sheen par épisode. Mon oncle Charlie.
Non, touché. Maintenant, il peut se toucher. Hein,
oui, mais enfin bon, c'est bon, il y en a de côté. Hein. Il n'y a pas de problème.
Allez, ça en fait.
Alors donc 13, c'est lundi prochain après-demain donc à 20h50 sur Canal+, deux épisodes par soirée. Il y a également cette excellente série, petite série dont je vous avais parlé déjà, FBI Duo, très spécial, mais dont on n'avait vu que la première saison. Et là, Série Club nous diffuse la deuxième saison donc de cette série qui est vraiment très sympathique, hein, l'histoire d'un fausseur, d'un cambrioleur de génie qui se retrouve associé avec le type du FBI qu'il a capturé, donc pour pouvoir démêler d'autres histoires. Avec dans la première saison un espèce de fil rouge, hein, qui concerne la disparition de sa copine et une vague notion de complot. Bien sûr, ça, les Américains en sont friands, il n'y a pas de problème.
Ouais, mais
ça fonctionne assez bien quand même.
Ça me rappelle une histoire vraie. Peut-être que vous la connaissez. Attrape-moi si tu peux. Si vous connaissez l'histoire, Frank Abagnale, qui est donc le personnage principal dont il est question dans le film, est devenu un conseiller de la sécurité. Il est consultant pour le FBI. C'est quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, qui n'est pas un spécialiste de l'informatique, mais qui donne des conseils très avisés. Et en plus, il fait des conférences qui sont disponibles sur le web en vidéo, qui sont hallucinantes. Le personnage est génial. C'est vraiment c'est un compteur né et de ce côté-là, donc je pense que la série doit s'inspirer plus ou moins justement de sa vie, quoi.
Voilà.
De ce
côté-là. Et outre le duo excellent dans FBI Duo très spécial, il y a également Tiffany Thyssen, hein, qui joue le rôle de la femme du mec du FBI et tout. Et puis bon, c'est sympa. Vraiment, moi j'aime bien cette série. c'est sympa. Bon, faut pas aller chercher très haut, ça pète pas très haut, mais c'est un agréable moment. On a également vendredi prochain sur France 2, toujours dans la case du
polar,
on va dire. Eh bien, une forme, j'aime bien parce que bon, ben avant France 2 se contentait de recycler en toujours un petit peu la même formule, on va dire, avec d'autres personnages, mais ça restait dans une dans un schéma et dans une structure assez classique au niveau du tournage, au niveau des scénarios. Et tout ça. Et là, avec Signature, eh bien, on nous annonce eh bien quelque chose de légèrement différent, voire de radicalement différent. Hein, moins de bavardage et tout, beaucoup de tambour, beaucoup de silence, qui paraît-il sont assez éloquents. Faudra jouer sur pièce. Cette mini-série compte 6 épisodes et c'est Samy Bouajila qui interprète le rôle d'un enfant à La Réunion, dans l'île de La Réunion, qui a vu sa famille massacrée. Et qui donc va rester dans la nature et va vivre dans la nature comme un enfant sauvage et va se mettre à tuer. Elle donc va devenir une espèce de serial killer qui va être poursuivi, chassé par Sandrine Bonner. Et on a également Sarah Martins dans cette mini-série qui sera donc visible sur France 2 à partir de vendredi prochain à 20h35.
Est-ce qu'ils font encore la bêtise de diffuser les deux épisodes à la suite
Il y a deux épisodes par...
Trois
Deux.
Ouais, enfin, n'empêche que c'est un petit peu dommage.
Trois vendredis. Bon, ouais, non, mais bon, ça va encore. Ça reste encore potable.
Ouais, mais
c'est pas mal. La dernière série dont je vais vous parler, eh bien, c'est une série qui est déjà en cours de diffusion, de rediffusion, mais sur une chaîne plus ou moins accessible en clair. En clair, ouais, sur la TNT, W9 en l'occurrence. À l'origine, elle était sortie, je vous en avais parlé d'ailleurs, sur Orange.
Chaîne Orange.
C'est Glee. Et comme ça, par hasard, mercredi, je me suis dit tiens, je vais quand même jeter un coup d'œil sur cette série, voir ce que ça vaut et tout. Et j'ai été carrément scotché.
Bah, non, mais l'histoire est franchement prenante. C'est bien écrit, c'est bien interprété, sauf interprété pour les chansons. Sur la chanson, il y a l'autotune, vous savez, le truc, le feat qu'on a inventé pour Stéphanie de Monaco, c'est-à-dire tu chantes faux et au synthé, on te refait jouer
C'est le truc de Cher aussi, non?
Non.
C'est le vocodeur, ça.
Non, c'est le vocodeur.
C'est le vocodeur, ouais. Mais le problème, tu vois, c'est que ils commencent à chanter, mais sauf qu'ils font la montée trop tôt, donc c'est rabaissé informatiquement, puis remonté artificiellement après, et tu l'entends, mais je te jure que à 10 mètres de distance, Je pète un câble quand la personne qui vit avec moi le regarde. Je lui dis mais écoute-le au casque parce que moi j'en peux plus. C'est l'histoire est bien, c'est prenant, c'est rigolo, c'est bien mis en scène. Mais dès qu'il y a une partie chantée, c'est je peux pas. C'est ignoble.
Alors c'est marrant parce que j'ai l'avis mais contraire. Mais alors vraiment c'est.
Mais t'as pas de feuille, c'est pas possible. Quoi. C'est
ignoble.
Ouais,
c'est sûr, j'ai pas d'oreille, c'est clair.
Du sport non. Fait une partie musicale à partir de 14h.
Alors Glee, l'histoire est bateau, on va dire. Hein, ça se passe dans un lycée et on a absolument pratiquement tous les clichés de lycéens qu'on peut avoir. Alors le Glee Club en fait, un regroupement d'élèves à l'origine par le prof d'espagnol qui décide de monter une chorale avec différents lycéens qui viennent d'un petit peu partout. Et là, dans cette chorale, on a absolument l'archétype de tous les lycéens qu'on peut voir dans toutes les séries, dans tous les films
pom-pom
américains.
Les
pom-pom girls, elles sont deux ou trois même. Il y a les Asiatiques, il y a le black de service, il y a le PD de service, il y a le capitaine de l'équipe de football de service et un autre mec de l'équipe de football et tout.
Il y a le geek, le chétif, le costaud.
Il y a le chétif, là, il est en fauteuil roulant carrément, quoi. Tu vois, ouais. Bon, d'accord, tu te dis, ça va. Ok, bon, on va faire avec ça. Mais là, et en plus, la trame scénaristique, ou en dehors des parties musicales, si tu veux, est relativement convenue. Hein, la pom-pom girl qui est enceinte, les parents qui ne veulent pas d'elle, les parents qui la foutent dehors et tout. Mais en fait, mec qui croit que c'est lui le père, c'est pas lui, c'est l'autre et tout. Mais quand va-t-elle le dire? Mais quand va-t-il le savoir?
Il y a une partie comédie, c'est oui, je suis enceinte et tout. En fait, elle l'est pas. Tout. Enfin, c'est vraiment de ce côté-là. Il y a. Ça tourne au gag d'ailleurs justement.
Oui,
je trouve.
Mais
c'est ça qui est très fort.
L'habileté justement des scénaristes dans cette série, c'est justement de pouvoir passer d'une émotion très intense à un pur moment de fou rire, à un
un moment un peu plus tendu, voire avec un petit peu de suspense et tout. C'est vraiment très très bien foutu de ce côté-là. Et alors, au niveau musical, il y a quand même 4 à 5 morceaux chantés par
C'est vrai que c'est une performance.
Hein, c'est
avec, avec la chorégraphie, avec en plus différents plans, des fois dans différents décors. Donc c'est vrai qu'il y a du temps de production là-dedans.
Non, c'est énorme.
C'est pas mal. C'est
carrément
pas mal.
Énorme. Alors, mais bon,
sur la partie chantée, au secours.
Les chansons interprétées, bon, d'accord, hein, c'est vraiment les gros les succès qu'on peut
standard.
Écouter. Qu'on peut écouter, qu'on connaît tous par cœur pratiquement depuis le début des années 80 jusqu'à nos jours. Hein, donc, ok, hein, on a droit à un morceau de Madonna, plus machin, plus truc bidule et tout. Bref, ça, si vous n'aimez pas tellement la variété, hein, si on peut l'appeler comme ça, passez votre chemin, c'est même pas la peine, quoi. Mais par contre, c'est au niveau de la qualité d'interprétation que là, bon, il faut vraiment tirer son chapeau parce que, bon, c'est vraiment énorme, c'est vraiment très très bien foutu. Avec des moments de gloire comme une chorale de sourds et malentendants qui chante Imagine avec en langage des signes et tout, enfin bon, des trucs énormes, vraiment énormes, quoi, où tu te dis bon bah ok, là vraiment les Américains ont cette culture de la comédie musicale depuis très très longtemps, ça y a pas de problème. Bon bah ils l'ont piqué aux Italiens, c'est l'histoire de l'opéra au départ, quoi, hein, mais quand même. Là, on renouvelle un petit peu le style parce que pour l'instant,
c'est vraiment Broadway. C'est vraiment Broadway qui rencontre Hollywood de ce côté-là. On se croit revenu vraiment. Je pensais à Ginger Rogers, tu vois, à tous ces duos mythiques, Top Hat et tout ça, les films des années 30. C'est comédie à fond. Il y a des moments qui sont vraiment très très drôles et qui sont vraiment fun. Moi, je m'attendais pas à ça. Et d'un autre côté, tu sens qu'il y a un esprit qui a vraiment un esprit de groupe et que. D'ailleurs, c'est marrant parce que tous les acteurs principaux de cette série, ils ont tous leur pet project à côté qui sont tous délirants. J'ai foutu sur mon blog là, la vidéo, il y avait un chat qui faisait la voix off d'un documentaire sur les Lolcats. Et c'est l'un des acteurs de Glee qu'il y a derrière. Ils ont tous leur petit truc de délirant à côté. Ils ont vraiment leur univers à apporter. Ce côté-là, c'est magnifique. Oh, c'est ouais. Clair. Après... qu'on a des putains de leçons à prendre.
Alors aussi, il faut dire que bon bah les acteurs principaux, c'est-à-dire les encadrants, hein, pas les élèves, mais les encadrants, le prof d'espagnol Matthew Morrison, excellent quoi, pas de problème,
nickel.
Hein, vraiment nickel. Hein, en plus, le mec sait chanter, danser, enfin tout. Tu dis wow, pas de problème.
Enfin, il y a de la performance.
Ça roule, hein. C'est non, de ce côté-là, c'est vraiment très très bien fait. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur cette série. À voir si vous pouvez accrocher et tout. L'avantage en plus de cette série, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir vu les premiers épisodes pour vraiment rentrer dedans assez facilement, même en ayant loupé pas mal d'épisodes et tout. Vraiment, à la moitié d'épisodes et tout, c'est bon quoi. Tu commences à être vraiment déjà familier avec l'ensemble des personnages et tu peux suivre vraiment ce qui se passe.
Et franchement, si par hasard vous êtes encore en VF, très vite pendant les chansons, vous dites ah, c'est peut-être mieux en VO. Et heureusement W9 fait le multicanal.
Non, W9 en plus diffuse bon la version française bien sûr, les chansons bon sont en anglais, mais sous-titrées. Donc hein, ça permet une compréhension un petit peu plus aisée des paroles de chansons quoi.
Parce qu'elles sont choisies pas par hasard, attention.
Ouais, non mais bon ça vaut vraiment le coup pour ça quoi. Hein, là vraiment bon on peut ne pas aimer les morceaux, les chansons qui sont choisies parce que vraiment c'est il y a du gros tube, hein, ça y a que ça. Hein. Il y a vraiment des trucs, bon ben ok. Mais il y a une autre interprétation qui est différente et tout. Et là, de ce côté-là, ben, faut saluer quand même cette performance. Donc c'est Glee et c'est visible tous les mercredis sur W9. Alors là, bon, ben, c'est du 3 épisodes par soirée. Hein, donc c'est mercredi prochain à partir de 20h40. Alors les films à présent. Des films que jamais ils auraient pu être sélectionnés en compétition officielle à Cannes. Coin. Alors, le samedi, c'est le western, comme d'habitude, sur RTL9 à 20h35. La route de l'Ouest d'Andrew Victor McLaglen. Avec le casting en béton, le film est un peu long, faut dire. Hein, il fait plus de 2 heures et tout. Puis bon, il y a des moments qui sont un peu longuets.
Oh, on a fait plus long à Cannes.
Mais quand tu as Kirk Douglas, Robert Mitchum et Richard Widmark dans le même film, déjà, tu te dis, oui, bon, d'accord, on va jeter un œil. Et la petite Sally Field, qui à l'époque était très jeune, hein, il faut le préciser. Enfin bon, majeure déjà, mais très 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 jeune. Hein. Pour la petite note féminine, c'est ce soir donc à 20h35 sur RTL9. Demain sur NRJ12 à 22h40, une virée en enfer de John Dahl en 2001. Alors là, laissez-vous guider par ce film, jetez-y un œil, ne loupez pas le début.
parce que vous allez rentrer dans un espèce d'univers très connu, hein, l'univers du thriller, du shocker, une énième ressucée de ce thème qui est familier. Il y a du duel dans ce film, hein, parce que bon, en fait, ça raconte l'histoire de Paul Walker, l'acteur
de Fast and Furious.
Ouais, Fast and Furious, qui à l'époque n'avait pas encore fait Fast and Furious. Ah, hein, ouais, ce film date de 2001. Et qui va chercher son frère en prison, son frère hein, qui est bon, vraiment le mec qui fout la merde. Et ce frangin, eh ben, la bonne idée pour se faire pardonner toutes ces conneries et tout, parce que Paul Walker, en fait, lui, ce qu'il voulait aller faire, c'est aller chercher sa copine pour aller faire passer un week-end à Las Vegas, tout tranquille, sympa. Et là, il est obligé de faire un détour pour aller chercher son son frangin. Et son frangin, pour se faire pardonner justement ce désagrément d'avoir à le sortir du trou, eh bien, il lui installe une cibie dans la bagnole et tout quoi. Et il commence à délirer sur la cibie. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, la cibie, c'est surtout réservé aux routiers, c'est-à-dire les mecs qui ont les gros truckers là, donc gros conducteurs de camions. Hein, et il commence à déconner avec un chauffeur de poids lourd qui va pas apprécier du tout. Et alors là, ça va être vraiment le truc qui va commencer à être très gore, très trash et tout. Avec
il est très flippant comme
là,
film. Hein.
Là, ouais. Ça monte crescendo comme ça, tout doucement. Et il y a une fin qui est absolument magnifique parce que le film reste ouvert. C'est ça qui est vachement marrant.
Ah, hein,
on
se dit,
ah bah non, bon bah ouais, bon d'accord, ok. Et vraiment, c'est le petit film parce que John Dahl nous a habitué à des polars vraiment bien ciselés,
tout Kill Me Again,
La Seduction,
Les Joueurs,
Red Rock West, ouais. Un des seuls films où Nick Cage il est à peu près potable d'ailleurs. Non, mais il faut le dire, hein, c'est vrai quoi. Et donc là vraiment, je vous invite à voir ce film et tout parce que ça passe très très rarement quoi. Et là c'est vraiment un bon petit film. Donc avec Paul Walker, Steve Zahn, Lily Sobieski qui joue le rôle de la copine de Paul Walker et Jessica Bowman. Mais là c'est vraiment ça vaut le coup. On passe un bon petit moment. Demain, ça c'est demain donc à 22h40 sur Énergie 12. Demain également sur Cinépolar à 21h, il y a La Ville accuse, un fumetti italien de Sergio Martino. Sergio Martino que tu connais parce que passé les années 70, il s'est mis à faire du post-apocalypse à fond les manettes. Mais là, il était encore dans Le Policier avec dans les rôles principaux Luc Miranda. Ouais, rappelez-vous Château Vallon. Mel Ferrer. Le papa de Miguel et Thomas Millian. Bon,
c'est pas un remake d'un film américain des années 50 ?
Non.
Il me semblait. J'étais pas sûr.
Enfin bon, tu sais, dans le cinéma, tout film est plus ou moins un remake d'un film.
Ouais, surtout en Italie.
Ouais. lundi sur TF6 à 22h25, Medieval Pie de David Leland avec Hayden Christensen, Tim Roth et Misha Barton, une espèce de pochade comme ça, hein, un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait Mel Brooks avec Sacré Romain des Bois, quoi. Enfin bon, on revisite un petit peu la période médiévale à la façon américaine et tout, mais bon, il y a Tim Roth dedans qui joue le rôle du méchant, donc bon bah hein, hein, et il y a Hayden Christensen quoi, hein, quand même sorti de Star Wars quoi.
Oui.
Qui casse un petit peu son personnage, du moins quoi. Mardi sur Direct 8, c'est une soirée JCVD, ouais,
ah
avec à 20h40, Time Cop.
Ouais.
Note, c'est la chaîne où il passe Alain Minc et Morandini, donc ouais, c'est un peu normal. Les grands penseurs se rencontrent.
Et à 22h30, Risk Maximum de Ringolam avec Natasha Henstridge. Et puis surtout, ça vaut le coup.
Ah, les seins de Natasha Henstridge.
Voilà. Non.
Mais non, moi j'allais dire, non, j'allais
on
dire.
On les voit dans
le film. Mais attends, déjà Lara Croft.
Les poursuites en bagnole, Clio contre Peugeot quoi, ouais, dans les jeux 10 ah, ça vaut le coup quand même.
Ah bah, Rémi Juliette,
ouais, c'est avec Jean-Luc Anglade aussi qui est coincé dans la voiture à un moment donné.
Ouais, Jean-Luc Anglade, ouais.
Et tout ça, c'est Direct 8, c'est ça?
Direct 8, ouais, mardi prochain. Mercredi,
c'est
la
TF9. C'est un time cop, je vais le revoir avec plaisir.
C'est mardi, donc Direct 8. Mercredi sur RTL9 à 22h15. Il est de retour, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu celui-là. Action Jackson.
Oh non,
ouais. Avec Carl Weathers, Craig T. Nelson, Vanity, Sharon Stone, bref, enfin bon, excellent, très bon, très bon, excellent film. Il n'y a rien à dire.
C'est plus que Chichen Chong.
Jeudi sur France 3, c'est. Alors là, attention, là, c'est du lourd, il n'y a pas de problème. Et pour une fois, il nous le programme dans l'ordre, c'est ça qui est intéressant. Tout d'abord, pour une poignée de dollars.
Ah, bien.
Hein, avec John Maria Volonté, Marianne Corr.
Tu veux dire ensuite, que c'est spaghetti bolognaise.
Et ensuite, à 22h45, ouais. Et pour quelques dollars de plus, avec Lee Van Cleef, encore Gian Maria Bonte, mais pas dans le même rôle, hein, c'est oui, un rôle différent. Hein. Et bon, bah ouais, bah, hein, c'est France 3, donc c'est jeudi prochain. Mais si vous aimez pas ce genre de film parce que vous trouvez que c'est trop violent et puis que bon, bah il y en a marre de la poussière et tout ça, quoi, eh bien, je vous propose sur Sci-Fi un film inédit de 2010, l'année dernière, Mega Shark versus Crocosaurus.
Il y avait Giant Octopus à un moment donné.
Mais oui, mais justement, le Mega Shark a réussi à dégommer l'octopus. Et donc là,
ta gueule,
bien,
tu
c'est
spoil,
le Crocosaurus qui arrive.
Merde.
Et oui.
Mais pourquoi tu spoil Mega Shark?
Avec Gary Stretch, Jalil White et Robert Picardo, qu'on se demande ce qu'il est venu foutre dans ce film. Enfin,
payer bon, mes impôts.
Robert Picardo, c'est le médecin, le médecin android dans Star Trek. Voyager, voilà, c'est ça quoi. La dernière des séries Star Trek. Jeudi, il y a également sur la chaîne Polar El Cortes de Simon Porvis avec Lou Diamond Phillips et Peter Honorati. Ou vendredi sur Sci-Fi à 22h45, Starship Troopers 2 de Phil Tippett avec Bill Brown, Richard Burgi et Kelly Carlson. Kelly Carlson, tu sais, c'est la blonde
Julian
McMahon dans Nip Tuck depuis le départ. La blonde qui après va sortir avec, avec l'histoire de l'enfant et tout.
C'est pas le film en animation?
Ah non.
Non, parce que je sais qu'il y a une suite en
3D. Non, c'est un film le film de siège quoi, en fait quoi, parce que bon, ils sont dans un endroit et tout, mais il y a des insectes partout et tout, ils savent pas comment sortir et tout,
c'est Carpenterien,
ouais c'est Asso quoi.
En tout cas, il faut féliciter du sport parce qu'il n'a pas trompé sur la marchandise. Effectivement, ce sont des films qui n'auraient jamais pu être sélectionnés à Cannes.
c'est clair et tant mieux pour eux d'ailleurs. Et sur la chaîne Action, vendredi prochain, pour terminer, un petit western italien bien sûr, Méfie-toi Ben, Charlie veut ta peau, de Michele Lupo en 72 avec Giuliano Gemma et Giacomo Rossi Stewart, qui doit être d'ailleurs le papa de Kim Rossi Stewart.
Peut-être.
Bah oui, certainement. Ouais. Le film date de 72. Bon, ouais. Ok. Mais nous supputons là pour l'instant.
nous supputons.
Mais ma foi, il est déjà 13h40. Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui nous ont écoutés sur la bande FM ou en stream, ou qui ont avancé trop vite dans le podcast et qui donc ont manqué plein de choses en cours de route?
Eh bien, tout à fait. Nous avions une interview de Claude Yoshizawa. Nous avons un cours sur l'histoire du funk en off, dommage pour nos auditeurs. Tezuka en culotte, le retour de Gezicht, du yokai... Yokai farceur, des jeux de mots givrés, du bourrin qui déguste, Xavier et X-Factor, la métrosexualité des comics, des jeux de mots pourris avec Thor, des seins en trapèze, des chômeurs, du coin coin, Charlie Sheen se touche, des comédies musicales en série, le retour de Château Vallon et le retour du Mega Shark avec un médecin androïde.
Je crois que vraiment un jour on va finir par avoir un problème sur nos résumés, ce qui peuvent être tendancieux. Nom d'un lapin en chocolat, vous savez, celui dont on met amoureusement la clochette sur le ruban qu'on va lui mettre autour, et uniquement cette saison, hein. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver nos chroniques écrites. Fouillez dans nos archives, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, sans accent étiré, supplémentweekend.fr. Vous écoutez FM sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, ce sera dans 15 jours, et oui, désolé,
mais non, dans le prochain épisode, il y aura un prochain épisode la semaine prochaine.
D'accord, vous le ferez, ok, promis. Vous me l'enregistrez au propre, net, sans saturer et tout, en étant en dessous du moins 5 dB.
Ouais, t'inquiète, nous on fait ce qu'on veut. Hein.
En restant en dessous du moins 5 dB,
on fait
là,
ce qu'on veut.
Sur promis. Ouais, c'est ça. Bon, bah du coup, la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye!